Salut les marques, salut les stars, bienvenue dans Catch Up. Je suis Eric Side, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions phares de la WWE. On va parler catch pendant une petite heure. Voilà, la grande semaine de WrestleMania est finie. On a déjà eu Monday Night Raw, NXT. Tout ça, c'est dans la boîte. Les reviews sont sorties, c'est disponible sur notre page YouTube et puis sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour SmackDown et pour m'accompagner pour cette belle analyse de ce SmackDown historique, l'inimitable Raphaël. Comment ça va, Raphaël ?
Eh ben, écoute, ça va bien. C'est vrai, tu as raison de le préciser. Je n'ai jamais été imité par Nicolas Canteloup jusqu'à présent. Mais ça va bien. Je le vis bien quand même. Et j'espère que tu vas bien, toi, Ringside. À moins que ce soit Nicolas Canteloup qui me parle. Ou Laurent Gérard. Ou est-ce le vrai Ringside ? Comment savoir ?
Si c'était Laurent Gérard ou Nicolas Canteloup, tu les aurais reconnus. Parce que généralement, quand on les imite, quand ils imitent quelqu'un, on reconnaît quand même.
C'est vrai, on va voir. Ouais. Qui c'est qui a gagné le Royal Rumble 2000 ?
Undertaker.
Oui, en même temps, je pose la question.
Que c'est aussi, tu sais, moi et les dates.
C'est bien toi, Ringside. Je te crois.
C'est bien moi. Ouais. Ça va moyen. Hein. C'est un peu le blues post-mania, là, hein. Post-WrestleMania.
Bah, c'est un peu facile, ça. Hein. On s'y attendait. Hein.
Ouais. Là, ça tape fort. Hein. On a eu ce merveilleux show en public, deux soirées. Incroyable, bah, ça aussi vous avez les reviews qui sont dans la boîte. NXT Takeover aussi, les reviews sont dans la boîte. Alors c'était magnifique, hein, WrestleMania, le retour du public.
On était heureux comme des enfants, mais ce compte public n'est pas resté.
Ben non, ils sont rentrés chez eux ces cons-là. Les étoiles qu'on avait dans les yeux sont reparties dans le ciel nocturne. Et nous revoilà dans le Thunderdome. Alors à SmackDown, on a un peu déménagé, on est sous Florida University. Je pense que c'était la même chose pour Monday Night Raw d'ailleurs.
C'est ça.
J'en suis même certain, désormais, puisque tu as acquiescé en plus. Voilà, donc moi je suis triste. Hein. J'ai regardé Monday Night Raw, c'était nul. J'ai regardé NXT, c'était nul. J'ai même essayé de regarder la All Elite Wrestling, c'était nul.
Oui, alors, ça n'a rien à voir, mais c'est normal. Mais...
ça ne change pas, mais bon... voilà, donc là je suis un peu au fond du gouffre. J'espère être sauvé par le merveilleux show bleu. C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais d'abord, il faut qu'on parle un peu des mauvaises nouvelles, parce qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule.
Ouais.
Après WrestleMania, on était tous heureux.
Ouais, c'est la charrette qui arrive.
La charrette qui grince. Tu fais très bien la charrette qui grince. Hein. Et ben, 10 personnes dans cette charrette quand même, donc c'est pas une petite charrette.
Ouais.
Son lot de superstars masculines et féminines, puisqu'on perd quand même la vétéran Mickie James, les iconiques Peyton Royce et Billy Kay, à ma grande tristesse. Chelsea Green, la rookie, qui aura fait un match à SmackDown, elle s'est cassé le bras, et puis on l'a plus jamais revue, on ne la reverra jamais. Kalisto et son chapeau qui traînait dans les couloirs, c'est fini aussi pour lui. Mojo Rawley, l'ami du Gronk, l'ancien gagnant du Memorial André The Giant Battle Royale, eh ben, exit. Il rentre chez lui aussi. Bo Dallas, le frère de Bray Wyatt, eh ben, il bolive plus, hein, il rentre chez lui aussi. Wesley Blake, un des derniers survivants des Forgotten Sons, eh ben, ancien champion tag team d'NXT, il est viré aussi. Notre ami Tucky, l'ancien pote de Otis, il est viré. Mais surtout, Samoa Joe, la méga star, le vétéran, que j'avais vu à Paris, moi. J'adore ce catcheur. Il a terminé sa carrière en tant que commentateur. Il était commentateur à WrestleMania. Et ben, c'est fini pour lui aussi. Bye bye, Samoa Joe. Alors, des rookies, des catcheurs qui étaient là depuis un moment un peu mal exploités, des personnes qui étaient même en train d'être repackagées, des légendes qui s'en vont. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, mon bon Raph?
Ah, c'est pas la charrette énorme, le camion remorque de l'année dernière, mais bon, de toute façon, on va quand même rester un peu humain et jamais s'enthousiasmer. Ça fait jamais plaisir que quelqu'un se fasse... virer. On va dire qu'il y a ce que j'appellerais les profils types. Les profils types, pour moi, c'est ceux que ça fait très longtemps qu'on les a pas vus. Donc, typiquement, Bo Dallas, Mickey James, c'est
Wesley Blake.
Wesley Blake, ouais, ça c'est assez. Mojo Riley, c'est pareil, Mojo, c'est assez classique. Ouais. Mojo Riley, bon, c'est pas celui que je vais pleurer le plus. Hein. Effectivement, le Andre the Giant, je pense que c'est son seul titre de tout NXT. À moins qu'il...
Il a dû être champion tag team. Hein. Champion
avec Zack Ryder.
Ouais. Avant que Zack Ryder se pète le genou.
Peut-être bien.
Et je crois qu'ils sont obligés de relâcher les ceintures.
Ah ouais, peut-être.
Mais peut-être bien. Je suis pas sûr. Je suis même pas sûr. Mais je vais essayer de regarder. Mais...
Fact-checking. Mais...
Après, vous m'entendez chercher sur Internet.
Ouais. Pour moi, celles qui sont très surprenantes, c'est les Iconics, parce que Peyton Royce avait l'air... on avait eu l'impression qu'il les avait splittés juste parce qu'ils voulaient Peyton Royce en solo. Et un peu comme ils ont fait d'ailleurs pour Tucker et Otis, donc du coup, ça a profité à l'un, ça a fait perdre l'autre. Mais là, ça fait perdre les deux, c'est bizarre. Billy Kay, c'est assez cruel, hein, c'est ce que je disais sur le Discord, mais moi, je suis... je tiens le catch-up Instagram. Donc je follow ces jeunes femmes et il y a quelques jours, ben voilà, Peyton Royce, elle avait mis une mignonne photo d'elle avec Billy Kay dans ses bras à WrestleMania en mettant en légende « Ah, trop contente, ma copine va être à WrestleMania, enfin on reconnaît son talent, elle qui me fait tant rire, c'est une des personnes les plus drôles que je connaisse. » Et bon, ben voilà, Billy Kay était effectivement en tag team avec Carmella à WrestleMania dans un match, on va dire, secondaire. Et c'est assez surprenant que ça arrive si vite en fait. Après Kalisto, bon, ça m'étonne moins, c'est pareil, c'est un peu le fond de tiroir. Et sinon, quand même, effectivement, le gros coup de tonnerre et qu'on n'attendait pas du tout, c'est Samoa Joe. Alors, on saura peut-être un jour ce qui s'est passé. Il était, je trouve, j'ai l'impression, très très bien vu par tout le monde en tant que commentateur. Je crois que c'était Mick Foley, Steve Austin qui avaient tweeté qu'ils aimaient bien Samoa Joe en commentaire. Moi, le seul truc que je vois, c'est un peu comme il y a pu avoir les conflits avec Daniel Bryan. C'est des histoires de « on te laisse pas catcher, mais moi, je veux catcher, mais les médecins disent que non. » Alors, peut-être qu'il va partir pour aller dans une fédé où les médecins sont moins regardants, je ne sais pas. Mais c'est dommage, parce que ce mec-là a fait courte carrière, on peut dire, à la WWE, si on compte pas trop le passage NXT. Il a eu qu'un seul titre US de mémoire de courte durée, c'est pas celui qui perd contre Ricochet d'ailleurs ou un truc comme ça, ou il gagne contre Ricochet, non, il le perd contre Ricochet, je pense.
C'est possible qu'il l'ait perdu contre Ricochet.
Je crois qu'il le perd contre Ricochet et que Ricochet le perd contre AJ Styles après, il y a eu un truc comme ça.
C'est fort possible, au moins qu'il l'ait perdu contre AJ.
Ouais, je sais plus, mais en tout cas, je suis assez triste parce que à la fois je l'ai mis en tant que commentateur et en plus c'est la douche froide parce que quand on a vu qu'il était pas commentateur à Raw, moi j'ai cru que...
Tu pensais que c'était reparti?
Ouais, moi je pensais que c'était parti. Je pensais que là on allait commenter SmackDown et qu'on allait dire oh là là, tout d'un coup, alors que Roman Reigns est en pleine promo, la musique du Samoan, la guerre des Samoans qui reprend. Moi je pensais qu'on y était quoi. Donc, non, bien triste.
Ouais, bien triste. Ben ouais, Samoa Joe, moi c'est un de mes catcheurs préférés. Comme je disais, j'ai eu de la chance de le voir à Paris. De ce que j'avais entendu, il était quand même assez satisfait. Du moins, ça ne travaillait pas trop de revenir catcher. Il avait quand même visiblement, il était quand même affaibli physiquement. Il a enchaîné beaucoup de blessures et je crois une, alors bizarrement au pouce, mais qui avait du mal à guérir. Il était plutôt satisfait de sa position de commentateur. Apparemment, il faisait aussi des voix dans des dessins animés et des choses comme ça, du doublage. Il s'était lancé un petit peu là-dedans. Donc, je pense simplement que, visiblement, il n'était pas prêt à remonter dans le ring et que un commentateur au salaire de Samoa Joe, c'est peut-être un peu cher.
Oui, peut-être.
Voilà. Alors, j'espère que sa carrière n'est pas totalement finie. J'aurais aimé le voir faire beaucoup plus à la WWE parce que même limité dans le ring, je pense que c'est une excellente promo et qu'il est crédible pour même aller affronter un champion, faire le même event, même s'il va peut-être plus sortir un match aussi impressionnant que ce qu'il a pu sortir quand il était... soit à la TNA, soit à la Ring of Honor. C'est un mec qui a fait des très très gros matchs quand même, hein, Samoa Joe. On a vu que très peu ce qu'il pouvait faire à la WWE, même si il s'est quand même imposé dans le roster. Hein. Je pense que assez rapidement, on s'est quand même rendu compte que c'était un mec avec qui il fallait compter. Mais ouais, c'est une grosse déception. Ouais, je suis assez triste moi de la plupart des choix parce que pour moi, c'était des catcheurs qui avaient tous du potentiel. Il y avait moyen de faire quelque chose avec. Même un gars
même
comme
Mojo Roy.
Même Mojo, moi je trouve que Mojo, pour la ce que j'avais vu au comment elle s'appelait cette émission qui s'avait fait dans les coulisses d'NXT, Breaking Ground,
ouais
on le voyait faire des promos aussi comme ça à l'arrache devant les spectateurs, il avait quand même quelque chose, il tenait le micro mieux que beaucoup hein. Mojo, maintenant effectivement il avait ce personnage de gros benet, de gros beauf américain. Moi je suis pas contre avoir un personnage comme ça dans le roster, même si je peux pas guère m'identifier au mec, quoi, mais ça me dérange pas d'avoir des personnages variés. Ouais, je trouve que moi ça m'inquiète de voir que la WWE n'arrive pas à faire quelque chose d'un mec comme ça, qui est énergique, qui sait parler au micro et qui a un physique de quand même impressionnant. C'est pareil pour les filles. Voilà, vous savez que moi j'aimais beaucoup Billy Kay, Peyton Royce, même si elle n'était pas particulièrement excellente dans le ring, il y avait de quoi faire. Je veux dire, pour moi, il y a d'autres catcheuses qui auraient pu être virées avant elle. Voilà, Kalisto, je suis triste aussi. Moi, je lui faisais de mal à personne. Kalisto, il était marrant avec son petit chapeau. J'aurais bien aimé le revoir dans le ring. Il fait toujours des super matchs, Kalisto.
Ouais, c'est
pour moi, tous, il y avait moins Tucker. C'est quand même dommage de le faire monter jusque-là pour.
Bah oui.
Un repackaging aussi, même en homme de main ou en truc comme ça, tu vois, ça, il peut toujours servir, quoi. Mais bon, c'est la dure loi de la WWE et je te confirme qu'effectivement, Samoa Joe a bien perdu son titre contre Ricochet.
Ah, voilà.
Voilà, donc c'est...
Samoa Joe, moi, je l'aurais bien vu, il aurait pu être manager aussi. Tiens, par exemple, on va en parler, hein, mais les histoires de montée des NXT qu'on attendait ou qu'on n'attendait pas, enfin... En tout cas, il faut souvent un mec qui fait la transition. Il aurait pu, moi je me souviens, Samoa Joe, que des fois, là, quand il se met en corporate, en costard cravate et qu'il tient le micro, il aurait pu faire un très bon manager de je ne sais pas quel tag team on aurait pu faire monter, par exemple, ou quel petit poulain on aurait pu faire débarquer.
Exactement. En plus, ouais, effectivement, en costard, c'est un des mecs qui porte mieux le costard, bizarrement, Samoa Joe,
ouais.
Dans le ring.
Moi, tu sais, on va en parler, mais il y a un truc que j'attendrais presque. Ça serait vraiment que Jimmy Uso revienne, mais pour casser la gueule un peu à son frère et à son cousin.
Ouais.
Et ça aurait été rigolo qu'il y ait Jimmy Uso et Samoa Joe d'un côté contre Roman Reigns et Jey Uso de l'autre. Une vraie guerre fratricide.
Bon, ouais. C'est vrai qu'ils n'ont jamais joué la carte du Samoa contre le Samoa. Enfin, je crois qu'ils se sont affrontés quand même. Si, c'est Joe, mais...
Il y a eu une période... ils se sont affrontés. Sais plus. Oui, ils ont dû s'affronter. Si, oui, ils ont eu une courte feud. Je me souviens notamment d'un pay-per-view que personne n'avait regardé, qui s'était très mal fini, qui finissait par un Roman Reigns contre Samoa Joe, qui avait été très mauvais. Ça doit être un pay-per-view post-WrestleMania ou avant WrestleMania.
C'est pas celui-là où les gens sont partis avant la fin ?
Si, c'est celui-là, oui.
C'est celui-là, ouais, d'accord. Ouais, c'était bizarre.
Mais sinon, moi, je me souviens surtout de sa feud contre Brock Lesnar, qui était assez costaud au micro face à Paul Heyman, justement, ouais, quand il
menaçait Paul Heyman là au creux de l'oreille en lui chuchotant c'était magnifique, ça.
Ah, c'était beau de menacer des gens au creux de l'oreille.
Ouais, il a fait des belles rivalités, mais qui ont jamais eu le match derrière qui faisait la différence, je pense, parce que peut-être qu'il est diminué physiquement, je ne sais pas. Voilà, Bo Dallas aussi qui s'en va. Bon, Bo Dallas, ils auront fait ce qu'ils ont pu avec lui. Je pense que la grosse erreur qu'ils ont fait avec Bo Dallas, c'est de le faire débarquer directement avec son gimmick de Bolivre là. Parce que c'était à NXT, ils avaient bien joué parce qu'il était face et les gens l'aimaient pas. Et du coup, il s'est transformé en ce heel qui disait les gens m'acclament, ils sont pas en train de me huer, ils font pas bou, mais ils font beau. Et puis voilà, il est devenu un petit peu un espèce de gourou de la positive attitude là. Mais par contre, à Raw, il est arrivé directement avec ce gimmick et forcément, il est passé pour un clown tout de suite. Et puis derrière, il s'est rien passé à part du comedy wrestling. Mais il y a peut-être moyen de faire autre chose quand même avec lui, je ne sais pas. Ils ont jamais joué non plus la carte du frère avec Bray Wyatt.
Ouais, voilà, c'était ce qu'ils auraient pu faire en ultime.
Ouais. C'est ça. Bon, bah écoute, hein, tant pis. Après, c'est peut-être des gens aussi qui sont pas faciles à gérer backstage. Hein. J'avais déjà entendu des trucs sur Bo Dallas qui étaient pas. Comme quoi, il avait un peu le melon.
Ah, peut-être.
Donc, voilà, bah c'était la nouvelle triste de la semaine. On dit au revoir à Mickey James aussi. Bon, ça, c'est pas trop étonnant non plus.
Ouais, ils ont fait une fête de retraite, mais bon.
Ouais, c'est vrai. Chelsea Green aussi, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il l'embauche pour la virer derrière ? Ils n'auront jamais rien fait avec. Triste. Voilà, bon, bah allez, on va vers SmackDown quand même.
Voilà. Hein, on ravale notre tristesse.
C'est ça, on était le 16 avril, on était au Thunderdome, donc au South Florida University, désormais. On démarre par un package vidéo, évidemment, qui nous résume le main event de WrestleMania avec ce Samoa Joe. Pas du tout, Roman Reigns plutôt. J'arrive pas à me sortir Samoa Joe de la tête. Roman Reigns, donc, qui a défait Daniel Bryan et Edge. Spoiler, on ne les verra pas ce soir, hein. Edge et Bryan. Donc voilà, il est victorieux, Roman Reigns. Dominateur, c'est lui le patron. Et on nous annonce qu'on a un nouveau commentateur pour accompagner Michael Cole. C'est ce bon vieux Pat McAfee que vous connaissez si vous êtes un habitué du pré-show, des pré-shows des pay-per-view ou alors de NXT, puisqu'il a participé notamment à Wargames contre l'Undisputed Era.
Il avait monté un. Pete Dunne.
Voilà, Pete Dunne et la team 1-2. Les deux Anglais là. Non, il y a un Anglais dans l'histoire. Et Danny Burch et Oni Lorcan. Voilà.
Les messieurs propres.
Exactement. Qu'on verra peut-être un jour dans le main roster. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit Pat McAfee, donc, qui sera arrivé dans le main roster avant Adam Cole, hein, avec qui il avait une rivalité et un match. Pat McAfee qui vient du football, je crois, qui vient de la NFL.
C'est ça.
Qui est, ma foi, plutôt pas mauvais au micro. Hein. Il avait été pas mal encensé par ses performances à NXT où il avait fait des grosses promos. Donc, le voilà à la place qui est judicieuse pour lui, je pense. Je sais pas, est-ce que toi, il t'a dérangé pendant l'émission ?
Là, pendant l'émission, moi, je l'ai trouvé plutôt bon.
On est d'accord.
Alors, il faut voir comment ça tiendra sur long terme, parce que là, j'ai trouvé qu'il a beaucoup joué la carte du mec content d'être là pour son premier soir. Et il a eu plusieurs fois des moments où il dit « Oh, tiens, c'est incroyable de voir ça sous mes yeux. C'est... Je vois... » Bon, ça, il pourra pas le faire pendant, pendant des mois. Mais c'était plutôt rigolo. Il était souvent debout. Il était assez pris dans l'action. Mais j'avais un peu peur, parce que moi, j'avais pas été très, très fan des promos à NXT. J'avais trouvé que c'était très... C'était vraiment de la cheap heel. Genre, je sais plus ce qu'il disait dans le détail, mais en gros, le truc classique. Ah, les fans, vous êtes tous des cons, et puis tout le monde est mauvais, et moi, je suis bon. Bon, c'était un peu facile. Là, c'est pas mal, c'était bien. Bonne surprise.
Ouais, voilà un mec qui a sa place, et je pense que c'est bien de voir que deux commentateurs à SmackDown. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux qu'à Raw, où il y a trois mecs, généralement, il y en a toujours un qui parle pas trop. Le ping-pong est plus simple avec deux commentateurs. Je sais pas pourquoi la WWE, ils s'évertuent à en mettre trois à chaque fois. C'était pas comme ça dans le temps et ça fonctionnait bien mieux. En tout cas, voilà, il a mieux fonctionné que le nouveau commentateur de Monday Night Raw, hein, qui était quand même moins cool. On démarre le show avec le champion de l'univers, Roman Reigns, qui débarque accompagné de son avocat Paul Heyman et du cousin Jey Uso, celui qu'on appelle le main event désormais, Jey Uso. Il explique qu'il a attiré l'attention sur SmackDown, hein, y a beaucoup de nouveaux téléspectateurs. Et il propose justement à Paul Heyman de raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à WrestleMania. Donc Paul nous raconte un peu les adversaires vaincus de WrestleMania. Donc Edge, qui est un Hall of Famer, Daniel Bryan, qui est ancien champion et également marié à une Hall of Famer.
Ça, c'est du CV.
Ouais, ça, c'est du CV. Je me dis pourquoi il raconte ça. Bref, en tout cas... Roman Reigns est le nouveau, enfin toujours le patron, le chef de la tribu. Roman nous explique que personne ne veut l'affronter. Il se compare à Babe Ruth. Il dit que voilà, il a fait un méga home run à WrestleMania. Tout le monde a peur de lui. Eh ben non, tout le monde n'a pas peur de lui puisque la musique de Cesaro démarre plutôt, et c'est le Suisse qui débarque plutôt en costume, toujours un peu mal taillé. Il vient nez à nez avec Roman. On sent que le défi est lancé, il va pour prendre le micro, mais les autres se cassent en fait. Roman Reigns, c'est le snob, concrètement, avec ses amis, ils s'en vont, ils ne le prennent pas au sérieux, hein, visiblement. Donc Cesaro, il reste un petit peu tout con dans le ring, et il va aller voir les officiels, Adam Pearce et Sonya Deville. Il dit, moi, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qu'est-ce que vous avez vu ce fils de pute là, de Roman Reigns ? Moi, je veux un match contre lui, même si le titre n'est pas en jeu, je vais me battre avec lui. C'est Sonya Deville qui prend la parole un peu à l'arrache. Elle s'impose face à Adam Pearce et elle lui dit « Écoute, je vais aller parler à Roman et puis on va voir ça. » Et donc, visiblement, c'est pas impossible que pour ce soir, on ait un match entre Cesaro et Roman Reigns. Et entre-temps, on nous remonte le UFO, la prise de Cesaro sur Seth Rollins, où il le fait tourner autour de sa tête. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce début de show et avec visiblement une feud qui démarre entre le Samoan et le cyborg suisse?
Ouais, ben toujours énorme promo de Roman Reigns, je trouve, enfin de la famille Reigns, hein, très solide. Bon, même si c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'entendre dire que Daniel Bryan est marié à une Hall of Fameuse, c'est du mal à notre petit cœur, c'était pas mal d'avoir Paul Heyman qui parle un petit peu de temps en temps pour nous dire effectivement voilà que bah, ce qu'ils nous ont dit, et c'était plein de violence et de mépris et tout, c'est que voilà, on avait affaire à deux multiples champions du monde, Hall of Famer potentiel, super-héros, etc. Et que Roman Reigns les a démontés, cassés en mille morceaux, qu'il a fait le pin sur les deux et qu'il s'est barré. Donc c'était dit avec beaucoup d'aplomb, de force, et c'est toujours aussi impressionnant. Après, il y a eu cette petite minute un petit peu longue où il a dit « Bon, bah, personne me défie, plus personne. Allô, allô, personne, personne. »
Personne, j'ai dit personne.
Et là, t'es là, bon, bah, quelqu'un va arriver, quoi. C'est assez prévisible. Par contre, je m'attendais pas vraiment à que ce soit Cesaro si vite, donc c'était bonne surprise. J'ai trouvé ça assez rigolo, ce moment où il se toise, et j'avoue que j'étais impressionné par Cesaro, du coup. Je pense qu'on n'avait jamais vu Roman Reigns et Cesaro face à face, et en fait, ouais. Je me suis dit que le Suisse était plus costaud que je pensais, puisqu'il est plus grand que Roman Reigns, qui est quand même pas ouais. dégueu. Et donc, je me suis dit, ah ouais, quand même, Si, il peut tenir en fait, parce que pour moi, Cesaro n'était pas si grand que ça, il était athlétique, mais il n'était pas si monstrueux. En fait, il est vraiment monstrueux, et je me suis dit, là, c'est intéressant. Et puis voilà, un peu comme à Raw, où on a vu débarquer tous les gagnants de WrestleMania, là, les Orton, Braun Strowman et tout, bah là, c'est un des grands gagnants de WrestleMania qui arrive. Donc, on n'a pas les losers du pay-per-view précédent qui deviennent challengers de celui d'après de suite, là. Non, là, c'est un vrai gagnant, donc tant mieux. On surfe sur la vibe Cesaro, moi, je suis content.
Oui, c'est la suite du push de Cesaro. Une belle victoire à WrestleMania contre Seth Rollins, hein, on vous rappelle. Net, clair, sans bavure. Et donc, le Suisse, là, qui vient défier le champion. Effectivement, j'ai bien vu qu'il était plus grand que Roman Reigns. C'est aussi ce qui m'a sauté aux yeux. C'est un peu dommage qu'ils aient pas fait cette rivalité... quand Cesaro était quand même plus costaud, et là il a un peu fondu ces dernières années, mais en même temps c'est peut-être mieux pour sa santé. Mais et bien voilà, ben on va avoir, je pense, une feud qui démarre assez sérieuse entre les deux. Et ben on est bien content. Il ouais, faut compter à comment continuer à pusher Cesaro. Il y a pas de raison.
Ouais, tout quand même assez étonné de l'absence des deux challengers. Ouais. Et d'ailleurs, Paul Heyman l'a dit, en gros, Roman Reigns, il est revenu de WrestleMania champion, et les deux autres, ils sont même pas revenus de WrestleMania. Donc dans ma tête, j'ai eu l'image de Edge et Daniel Bryan toujours défoncés au milieu du ring, tout le monde a éteint les lumières, passé le balai, c'est 5 jours plus tard.
ils sont à la maison, ils mangent de la soupe. Ouais, écoute, c'est ça, hein, quand on n'a plus l'âge et qu'on veut jouer avec les jeunes.
Drew, lui, il est revenu, hein.
Drew, il est revenu tout de suite. Ça confirme peut-être le statut de part-timer de Edge et tout doucement de Daniel Bryan. C'est mauvais calcul quand même, hein, parce que derrière, quand ils vont revenir, peut-être qu'on les acclamera pas autant que s'ils étaient revenus là tout de suite et qu'ils avaient rebondi.
On peut leur laisser une petite semaine de répit, mais ça serait très bizarre qu'on se rende compte que finalement Edge est part-timer. Pour le moment, on lui a laissé le bénéfice du doute puisqu'il s'est pété le triceps très rapidement l'an dernier. Mais si c'est que pour revenir à Money in the Bank ou SummerSlam, faire des matchs de gala, non, j'espère pas quand même, Edge.
Ouais. Bah ouais, moi j'ai envie de le voir affronter tout le monde là. Il a quand même tenu tout le Royal Rumble, on nous a teasé des affrontements avec tout le monde, là, donc on veut voir la suite. Ouais. On croise les doigts, on verra, parce que cette carte maintenant du part-timer, Hall of Famer qui revient pour un dernier match, on va pas pouvoir nous la sortir à chaque fois. Hein. Là, ça a fonctionné parce que bon, ils sont partis sur la triple frite et on a quand même on a compris que c'était pour mettre encore plus over Roman Reigns et finir de l'imposer comme le vrai patron de la WWE. Mais maintenant c'est lui le patron, il n'y a plus de raison d'utiliser des vieux pour essayer de lui apporter de la crédibilité. Donc là, maintenant, effectivement, il va falloir trouver des concurrents à Roman Reigns et puiser dans le roster qu'on a et puis chez les part-timers. Hein. Je pense que c'est impératif maintenant. Le jeune Otis, hein, le gamin, il arrive accompagné au ring de Chad Gable. C'est ce qu'on appelle l'Alpha Academy.
C'est cela, on les appelle ainsi.
C'est comme ça qu'on les appelle. Hein. On a une petite vidéo qui nous rappelle que Chad Gable a transformé Otis en monstre destructeur. Et ce soir, Otis va affronter Rey Mysterio, accompagné de son fils, Dominique, le rejeton, comme on l'appelle. On a un petit tell of the tape, comme on dit, avec, où on voit un peu le poids, la taille, les coups spéciaux, les spécialités des lutteurs, comme on a généralement à l'UFC. L'UFC Mixed Martial Art, hein, pas l'association des consommateurs. Et on découvre que, crois-le ou non, Otis est plus gros que Rey Mysterio.
Et si, ouais.
Hein, j'avais pas calculé, moi. C'est bien qu'ils aient montré. Donc voilà, bah, c'est sur cette information qu'on démarre le match. Et donc, on a la puissance d'Otis contre la rapidité de Rey. Ça se fout sur la gueule dans tous les sens. Y a Otis qui va bloquer un crossbody de Rey Mysterio et l'écraser au sol, comme il sait si bien le faire. Il va tenter ensuite son flying bulldozer, là, son gros splash depuis le coin du ring, mais c'est esquivé par Mysterio, qui va placer Otis en 619. 619, il va se relever, Otis, repartir, mais Mysterio va lui refaire un dropkick dans les jambes, ce qui fait qu'il va se retrouver à nouveau en position de 619, Otis. Cette fois-ci, ça ne pardonne pas. 619 dans la gueule. Et après, Mysterio passe dans le coin du ring sur la troisième corde. Otis va essayer de l'attaquer. Mais Mysterio se jette en avant et il le piège Otis dans une espèce de crucifix roll-up. Et le piéger, lui coincer les épaules au sol. 1, 2, 3. Et c'est la victoire de Mysterio. Défaite d'Otis, donc du coup. Les Mexicains qui savourent la victoire entre père et fils. Une déconvenue un petit peu pour le jeune Otis. Ça t'a plu ce petit match de bas de carte, on va dire?
Eh ben plutôt, ouais, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Je suis vraiment satisfait du in-ring et du personnage d'Otis depuis qu'il est dans cette académie. Hein, il est plutôt sympathique.
Ouais.
Et je trouve le scénario du match qui était relativement court plutôt bien fait, c'est-à-dire que Rey Mysterio a gagné plutôt à la vétérane. Hein, il a pas pu faire son splash qui suit le 619, et bien il a transformé en autre chose. Et Otis, qui a encore un peu ce rôle de jeune rookie un peu mal dégrossi, il s'est fait prendre dans le piège. Donc on continue, tout ça c'est la scène tag team, hein, on le rappelle, voilà, puisqu'ils étaient dans les tag team match au SmackDown de la semaine dernière, là, ce qu'ils avaient appelé le WrestleMania SmackDown. Donc à mon avis, on va les recroiser avec d'autres équipes. Voilà, le résultat est plutôt correct, je trouve, pour donner envie de revoir tout ce beau monde. Après, c'est vrai que de Dominique, on le voit moins catché, hein, je trouve, depuis ouais, quelques temps, mais bon, bah il doit être content d'être avec papa, et puis ça crée un peu de... Bah voilà, ça crée une tag team, et puis ça crée un petit peu plus de personnages à Rey Mysterio. Parce que sinon, tout seul, depuis 40 ans qu'il est là, ça commencerait à tourner en rond. Mais là, voilà, il y a cette histoire-là de père-fils, donc c'est pas mal, je trouve.
Ouais, écoute, c'est bien goupillé, le match était bon. Rey Mysterio, il est encore incroyable, je trouve, pour son âge. Même sans compter son âge, je dirais, on dirait un jeune, quoi, quand il catch. Et j'aime beaucoup Otis en version grosse brute. Et on est content que Chad Gable ait évité la charrette quand même. Je suppose que ça l'a sauvé, l'Alpha Academy, je pense.
Oh oui, je pense.
Voilà, bah on a
un
hâte
match
de voir
de
la 3 suite.
Minutes.
Ouais, 3 minutes, mais deux fois, ça suffit. Hein, en weekly, il n'y a pas de raison de faire plus sur une histoire comme ça. Hein. L'histoire qu'il fallait retenir, c'est que Rey Mysterio, il a de l'expérience. Et il sait comment déjouer quelqu'un, même s'il n'arrive pas à le battre au niveau de la puissance. Quoi. D'ailleurs, il l'a fait toute sa carrière. Donc,
c'est ça.
Il y a encore du boulot pour Otis. Hein, mais avec l'aide de Chad Gable, ça devrait aller dans les semaines qui viennent. En tout cas, voilà, c'était joliment troussé. Eh bien, grosse news, on nous annonce que ce soir, Roman Reigns va affronter Cesaro. Ça, c'est juste après la pub. On nous remontre une image de WrestleMania, le UFO de Cesaro sur Seth Rollins, où il le fait tourner comme ça. Pendant un bon moment, On a une interview de Kelly Braxton qui interview Paul Heyman. Elle est à moitié à poil, Kelly Braxton, ce soir. Et Paul Heyman nous rappelle que Roman a gagné à WrestleMania. Il se moque un peu de Cesaro, qui n'est pas du tout du niveau de Roman Reigns. Il a décidé de tuer la rivalité dans l'œuf. Hein, il dit on va pas y rester 3 heures sur cette rivalité avec Cesaro. On va lui donner ce qu'il veut tout de suite ce soir en main event. Cesaro affronte le main event, Jey Uso. Et oui, c'est pas Roman Reigns contre Cesaro, ce sera Cesaro contre Jey Uso ce soir. On nous a bien eu. Pas trop déçu, toi, de pas avoir le match tout de suite ?
Non, j'aurais même préféré, je préférais ne pas l'avoir tout de suite, ce match. Par contre, effectivement, j'ai pas compris ce passage de la technique où ils nous ont marqué Roman Reigns versus Cesaro. En plus, ils ont marqué Up Next, ce qui d'habitude.
Ah ouais, Up Next, c'était pas pour ce soir, oui, c'était tout de suite après normalement.
Ouais, et donc en fait non. Donc là, il y a eu un petit botch, je pense. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Paul Heyman. Alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il ait pas glissé une petite phrase sur leur passif. Il a quand même été entraîneur de Cesaro pendant un court passage. Mais sinon, sinon, il a un peu dit ce qu'il avait dit sur le ring, hein, que Roman Reigns a un pédigré exceptionnel, là maintenant un gros tableau de chasse, et que Cesaro, il a le physique, mais il n'a pas le, c'est pas une attraction comme il a dit, donc c'est pas une star. Comment dire, je trouve que ça commence à passer un petit peu la hype de Main Event Jey Uso parce que ça commence à être un peu classique, que ce soit contre Edge, contre Daniel Bryan, contre Kevin Owens, on en a vu un paquet de. Jey Uso qui main event SmackDown, souvent qui perd, et puis après, le mec qui bat Jey Uso, après il affronte Roman Reigns, donc ça, on sait que ça fait toujours des beaux matchs, mais ça commence à être un peu répétitif, je trouve, main event Jey Uso.
Répétitif, c'est beau, hein. je pense qu'effectivement on peut dire ça. Surtout qu'il y a, à chaque fois, il y a peu de suspense, on sait qui va gagner, enfin qui va le perdre plutôt. Je vois bien quand même Roman Reigns avoir imposé son cousin. Auprès des créatifs.
Oui.
Je dis finalement, ce sera mon bras droit et il vous fera les main events toute la semaine. Bon. Soit. On enchaîne avec Sami Zayn. Il est à genoux. Enfin, il se met à genoux. Hein. Il est au milieu du ring. Il se met à genoux pour nous raconter sa version de WrestleMania. Hein. Puisqu'il nous explique que. On se souvient qu'il a perdu, hein, Sami Zayn contre Kevin Owens. Et avait fait venir son ami Logan Paul. Le youtubeur qui s'est pris un stunner de Kevin Owens, hein, Logan Paul. Justement, Sami Zayn nous explique que Logan Paul a été empoisonné par Kevin Owens, par Michael Cole, par tous les gens un petit peu de la WWE qui lui ont un peu lavé le cerveau, hein, ils lui ont insidieusement comme ça, hein, ils l'ont monté contre Sami Zayn. Et du coup, il nous explique que pendant le match à WrestleMania, il était inquiet pour Logan Paul, inquiet pour sa sécurité, pour sa santé mentale. Et c'est ce qui a permis à Kevin Owens d'avoir le dessus sur Sami Zayn et de remporter le match. Mais ce soir, il veut sa revanche, Sami Zayn. Et il appelle Kevin Owens, il dit « Amène-toi, ce soir Logan Paul, il est pas là, j'ai l'esprit clair. Mais je sais très bien que tu n'oseras pas venir, Kevin Owens », dit-il. Et c'est juste à ce moment-là que la musique de Kevin Owens retentit. KO débarque, qui s'amène au ring. Et on a droit à un WrestleMania rematch. Alors, Sami Zayn, il va d'abord jouer un petit peu l'anti-catch, hein, il va refuser le combat, aller à l'extérieur, mais Kevin Owens va tout de suite le prendre, lui écraser la tête sur la table des commentateurs, le ramener dans le ring. Là, il y a un match qui s'ensuit, avec un petit déroulé de chacun, une petite domination de Kevin Owens, au point que Sami Zayn va aller se faire décompter à l'extérieur du ring et perdre le match, donc par décompte à l'extérieur, mais ça, Kevin Owens, il veut pas le savoir. Il va aller chercher Sami, il le ramène dans le ring. Et il lui place un stunner pour bonne mesure. Est-ce que ce sera le point final de cette feud ? On l'espère parce qu'on n'aime pas quand ça traîne trop longtemps une fois que tout a été dit. Mais en tout cas, Sami Zayn, il est toujours à l'ouest. Il est toujours parano. Il n'est pas redevenu pote avec Kevin Owens. Est-ce que ça t'a plu, toi, ce rematch de WrestleMania ?
En tout cas, ça m'a étonné. Je ne m'attendais pas à ce que ce rematch-là ait lieu. Je pensais qu'on c'était le genre de feud qu'on avait un peu fait pour WrestleMania, pour avoir un peu le feel-good match et à laquelle on passerait. Mais c'est vrai que là, on est un peu coincé, je trouve, pour les deux. Déjà parce que Kevin Owens, lui, c'est un main event matériel, mais il a quand même passé tout l'hiver contre Roman Reigns. Donc, on est un peu bloqué. Sami Zayn, c'est pareil, hein, est un peu bloqué. Le titre intercontinental, c'est parti sur autre chose. Bon, alors pourquoi pas continuer un peu les deux, mais c'est vrai que là, j'ai bien aimé l'affrontement tout en, ouais, tout en bon, des comptes à l'extérieur. Pourquoi alors sachant que donc c'est effectivement Sami Zayn qui réclame le match. Sami Zayn qui lui au moins est content de revenir au Thunderdome. Hein, et lui, il aime pas quand il y a des vrais fans. Lui, ouais, ça le déconcentre, les vrais fans. Mais alors c'était assez drôle parce qu'il a quand même tenté plusieurs fois de s'échapper, Sami Zayn. Il a été plusieurs fois rattrapé par Kevin Owens qui lui a placé des sandtons, un peu tout. ce qui m'a fait rire, c'est l'orgueil du catcheur évidemment, c'est qu'à chaque fois il kick out Sami Zayn, par contre il essaye de se barrer dans la foulée. s'il était vraiment vénère, il pouvait se laisser river les épaules, hein, le pauvre Sami. Mais ben oui, j'ai pas. Ça m'a un peu fait penser à ouais le stunner sur Logan Paul. Là, il y a un nouveau stunner. C'est un peu le. J'ai l'impression que le stunner est un peu le truc facile pour que la foule pop et puis hop, on est content sur le segment. Alors qu'au final, il n'en sait pas trop ce qui s'est passé. Bon, voilà. Bon, Kevin Owens, il est un peu en mode bon, ben, j'aime bien me battre, alors je vais me battre et puis à la fin, je m'en vais. C'est un peu transition, je trouve, faite de transition. Je sais pas, à moins qu'on aille vers un. Une stipulation, quelque chose. D'ailleurs, notons que autant à Raw, on a un peu préparé le prochain pay-per-view, autant là, on l'a jamais mentionné, le prochain pay-per-view. Ouais, donc, ouais, on build de rien, là.
Non, non, on sent que c'est un peu encore les retombées de WrestleMania. Alors, c'est vrai que le prochain pay-per-view, du coup, c'est Backlash, qui est renommé WrestleMania Backlash.
En plus.
Donc, théoriquement, le thème du pay-per-view, ça va être les matchs revanche un peu de WrestleMania. Si je pense, ça me paraît logique.
Ça semble être ça. Ça rappelle la. Comment ça s'appelait pendant longtemps, il y avait un pay-per-view juste après WrestleMania. C'était ça. C'était
Backlash, hein, si je dis pas de bêtises.
C'était Backlash. Il n'y avait pas un truc qui s'appelait Vengeance Day ou quelque chose comme
ça.
Ah,
peut-être.
Ça, ou...
Peut-être. Je ne sais plus.
Je sais plus.
Mais je sais que généralement, le pay-per-view qui suit WrestleMania, on a souvent ceux qui n'ont pas eu trop de temps.
Ouais.
À WrestleMania qui se rattrape en faisant des gros matchs donc c'est généralement toujours un petit peu de qualité ouais. J'espère que ce sera le cas cette année, on verra bien. Après là la donne est différente parce qu'à WrestleMania évidemment on avait le public, on l'aura pas là, du moins je pense pas ça me paraît difficile. Donc ce match là ça peut s'inscrire dans la thématique du pay-per-view. Ils sont un peu incapables de faire des mauvais matchs les deux là ensemble, je pense.
C'est déjà ça.
Hein, c'était quand même cool cet affrontement ce soir, même si c'était un peu du rap, quoi. On avait déjà été bien rassasiés à WrestleMania, même si beaucoup sont restés sur la fin, sur leur fin, par rapport à cet affrontement à Zayn et Owens, parce que les gens en attendraient peut-être beaucoup, beaucoup trop. On va voir si les deux-là restent encore face à face ou si on va les orienter vers d'autres. En tout cas, ils sont là. Bon, même si moi j'ai un peu des réserves sur Kevin Owens en babyface. Ils sont quand même excellents l'un comme l'autre. Hein. Alors, en particulier Zayn qui est toujours extrêmement bon là, dans son personnage de psychopathe paranoïaque. Là.
ils sont très bons et honnêtement, finalement, voilà, si on se dit que c'est un peu bouché partout ailleurs, faute de mieux, c'est très bien de les foutre l'un sur la gueule pendant quelques semaines. Par contre, si on part sur une feud qui dure un petit peu, et on peut, avec un peu plus d'intensité, hein, on peut.
Mmh. Ouais, ouais. Comme tu disais, une gimmick.
Mais voilà. Il faudrait une victoire de Sami Zayn, moi je trouve. Hein. C'est lui qui en manque de victoire. Enfin, Kevin Owens, il a passé l'hiver à perdre contre Roman Reigns, mais il a gagné à WrestleMania, il apparaît assez fort. Là, je trouve que Sami Zayn, par exemple, sur le match de ce soir, il a quand même bien dérouillé, bien été pris par Kevin Owens, donc il faudrait qu'il arrive à tirer à un moment donné son épingle du jeu, à avoir une vraie victoire référence, je trouve.
Et puis donnez-lui la mallette du Money in the Bank.
Ah, mais ça serait parfait, extraordinaire. Hein, alors voilà. Gimmick-là,
parfait.
Parfait.
Hein, et en plus, ces deux-là, il faut qu'ils montent dans le main event. On a besoin de les voir au-dessus, quoi, et puis de laisser de la place pour les gens en dessous à faire des feuds sans importance. Eux, il faut qu'ils soient en haut de la fiche, l'un comme l'autre. Voilà, on croise les doigts pour que ça se fasse. En attendant, on nous remontre un passage de WrestleMania. Je ne sais pas si ça t'a marqué, toi. C'est un des passages les plus impressionnants. C'est le UFO de Cesaro sur Seth Rollins.
Ouais, c'est impressionnant. Ouais.
Il le fait tourner comme ça, sans les mains. Incroyable. Apollo Crews, notre nouveau champion intercontinental. Je suis très content. C'est le vrai champion. Il avait déjà battu plusieurs fois Big E.
Le nouvel Africain.
Voilà, c'est ça. Hein. Il est désormais nigérian. Il nous présente son carte du corps, un parfait inconnu qui se nomme en fait Commander Aziz alors.
Ouais.
Je ne savais pas du tout qui était ce personnage. Est-ce qu'on a des nouvelles de Baba Tunda ou comment ils appelaient celui qui était dans Raw Underground là ?
Dabakoto ? Bah, je sais pas.
Il s'est pas fait virer.
Il est dans la charrette, je crois. Il n'y avait pas un mec qui s'appelait Baba Tumbé aussi au Greatest Royal Rumble ?
Ouais. C'est vrai, ça, celui-là, ils l'ont pas viré non plus. Bon, je sais pas pourquoi je parle de ça. En tout cas, voilà, Apollo Crews, il est content. Il explique que Biggie est pas là ce soir, mais c'est normal vu ce qui s'est passé avec donc ce nouvel venu là, ce parfait inconnu, Commander Aziz. Voilà, il est content, hein, Apollo Crews. Il donnerait bien un rematch à Biggie, voilà, mais Biggie n'est pas là. Tu l'aimes bien toi, Apollo, en version nigérian et avec son nouveau comparse là?
Moi j'aime beaucoup Apollo Crews Hill, là je suis assez fan, j'aime bien la gimmick, j'aime bien le... Voilà, c'est tout con, mais moi ça marche sur moi qui en plus suis un peu... J'aime bien les voyages, les pays, les cultures, alors évidemment c'est à l'américaine, c'est caricaturé, mais voilà, que le mec prenne une identité un peu plus raciale, et puis c'est pas n'importe quoi, c'est... Enfin, je veux dire, le Nigeria c'est quand même un pays qui est en train visiblement d'exploser un peu en sport, hein. Moi je suis pas trop les sports, mais... Donc déjà, il y a Omos, qui est nigérian aussi, champion tag team à Raw. Et puis, j'ai vu passer un truc sur Instagram, je crois qu'en boxe ou en UFC, justement, ou en MMA, il y a plusieurs Nigérians. Voilà, c'est pas, ils n'ont pas sorti la gimmick d'un Allemand ou d'un Français ou d'un des 4-5 pays principaux du monde. C'est le Nigeria, je pense que pour beaucoup d'Américains, ils ne savent même pas le placer sur une carte. Pour beaucoup de Français aussi, je pense. Et même moi, je pense que sur une carte vierge de l'Afrique avec juste les frontières, je suis pas serein. Donc c'est rigolo. Après, ça me fait rire, c'est l'accent. Alors, je sais pas si c'est sa vraie voix qui l'a repris ou si force l'accent, évidemment. Ça, on se croirait un peu, là. On entendrait les esclaves noirs dans les films de Tarantino qui parlent, là. C'est vrai que ça surjoue bien l'accent africain. Mais je suis intéressé par ce duo. Je trouve qu'il y a le décorum, il y a les costumes, il y a l'ambiance, il y a le physique. Et voilà, après, c'est vrai que par contre, le nom me paraît un peu bizarre. Aziz, moi, j'aurais vu ça pas du tout nigérian, mais plutôt maghrébin, je ne sais pas, comme nom. Ouais. Mais bon, Commander Aziz. Après, il a la classe, hein, il est costaud, il a les médailles.
Ouais. C'est vrai, c'est parfait pour commencer, ça, ce job de garde du corps là, de Biggie. C'est quand même un gros.
De Apollo.
De Apollo, oh là là.
C'est mieux que Retribution comme rôle.
Ah ben ouais, même si Retribution, il y avait du potentiel, mais ouais. Non, c'est un truc qui fonctionne, hein, sur Apollo Crews. Ouais, l'accent, écoute, il y avait le Black Panther, si tu regardes les VO des Avengers,
ouais.
du film Black Panther, il prenait aussi un accent qui était un petit peu caricatural, mais ça fonctionne.
Et n'oublions pas qu'il y a, allez, je vais dire, 2 mois peut-être, on avait vu Apollo prendre conseil dans le fauteuil de Roman Reigns, hein, Discretos, donc il avait... Il a peut-être pris des bonnes leçons aussi. Hein.
C'est ça. Je crois qu'il a eu de la chance d'être migré à SmackDown, à Apollo, de rester près de Paul Heyman, qui avait des gros projets pour lui et qui a dû lui donner les conseils qu'il faut pour un peu exploser à l'écran, qu'il n'avait pas su faire depuis qu'il était arrivé, où c'était une endive, hein, un petit peu, Apollo. Moi, je suis très content, hein, de le voir exploser comme ça. Et surtout, je le trouve super fun. Mais du coup, effectivement, il a un peu piqué la vedette à Biggie, qui était parti pour son méga push.
Ouais,
c'est pas grave. Ouais, on attend le retour de Biggie, qui va sûrement se venger et démonter le grand Aziz, là, hein, si c'est possible.
Ben, tu vois, moi, j'étais presque... suite à WrestleMania, je me serais presque dit... c'est un peu raté pour Biggie, là. Moi, j'aurais reformé le New Day à 3 quelques temps, quitte à lui redonner un push dans un an, je sais pas, ou 6 mois.
Ouais.
Je trouve qu'en solo, là, il va falloir redonner un vrai gros élan, là, et peut-être, à mon avis, le faire partir vers autre chose, parce que face à Apollo Crews, il n'a pas surnagé, quoi. Il n'a pas été ultra dominant.
C'est quand même dingue de se dire que c'est Apollo Crews qui a réussi à enterrer Biggie, quoi.
Ouais. Donc, c'est assez étrange. Alors, après, effectivement, je suis comme toi, je suis très content. Ça me fait un peu penser d'ailleurs à Sami Zayn, hein, qui a été très fade aussi en babyface low quart d'heure pendant longtemps. Et qui a explosé en faisant un heel turn. Donc pour Biggie, Ah, il peut toujours avoir un gros projet, il peut toujours Biggie contre Roman Reigns à SummerSlam ou un truc comme ça, c'est toujours possible, mais il va falloir plus bosser que ce qu'on pouvait croire.
Ouais, effectivement, ça va pas venir tout seul, et il y a de la concurrence à SmackDown, hein, y a beaucoup de bons talents, donc on peut pas s'endormir sur ses lauriers, et surtout, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrête d'accepter toutes les idées de Biggie, parce que son truc du mec sur le canapé qui mange des bonbons en pyjama, pas si ça te met over, ça, hein. Ça te met over quand c'est le Thunderdome, mais dans la vraie vie, je pense qu'il passerait plus pour un con qu'autre chose. Hein. Ouais. Devant le public. C'est pas ce qu'on a envie de voir. Mais on va voir la suite. Hein. En tout cas, il était pas là ce soir, Biggie. Alors, c'est le moment de passer un extrait de WrestleMania. C'est le UFO de Cesaro sur Seth Rollins, où il le fait tourner comme ça, sans les mains.
Ah oui, c'est impressionnant ça.
C'est impressionnant, hein. C'était un grand moment. Un des plus impressionnants, ils disent, qu'on ait vu à WrestleMania. Les Street Profits. Ah, ils nous avaient manqué à WrestleMania, ceux-là.
Ah, ça c'était bien, ouais.
Et ben ils sont là pour la Bianca Belair Victory Party, hein, puisqu'on sait que Montez Ford, c'est le petit ami de Bianca Belair. Bianca Belair est votre nouvelle championne de SmackDown. Elle a battu Sasha Banks à WrestleMania. Donc, on sait que ce soir, il nous explique, hein, les Street Profits, on est content parce qu'on va affronter les Dirty Dogs, on va récupérer nos titres de champion tag team, hein, de SmackDown. On rappelle que les Dirty Dogs, c'est les champions Ziggler et Bobby Roode. Robert Roode, comme on l'appelle de nos jours. Mais ils disent d'abord, on est venu pour célébrer la victoire de Bianca Belair, votre nouvelle championne de SmackDown, celle qui a brisé le plafond de verre du show bleu. On a un petit package vidéo qui nous montre les grands moments de l'affrontement entre Sasha et Bianca. On ne voit pas de UFO dans ce package-là. Ensuite, nos deux comparses, hein, ils accueillent Bianca Belair. Elle est très distinguée ce soir. Elle est heureuse. Elle remercie tout le monde. Elle remercie son homme. Tout le monde est content. Hormis Sasha Banks, qu'on voit dans les coulisses, elle porte les cicatrices du match. Là, elle a une grosse marque liée au gros coup de natte. De la natte de ses cheveux, hein, de Bianca Belair. Elle a frappé Sasha Banks avec, comme elle sait si bien le faire. Et maintenant, Sasha Banks, elle a une grosse marque, elle n'est pas contente. Y a quelque chose à dire sur cette séquence-là. C'est sympa de voir Bianca Belair fêter, mais il n'y a pas grand-chose quand même.
écoute, moi, je l'ai trouvé vachement bien cette séquence. Alors, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Ça fait pas avancer l'histoire, hein. C'est effectivement une célébration, mais moi je suis touché, ça m'a fait plaisir, j'ai trouvé ça sincère. Bianca très émue, Montez Ford qui est extraordinaire au micro, je trouve, qui a rendu hommage à sa femme comme il fallait, quoi. Hein. Ça a démarré comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui en veulent, hein, dans notre pauvre France. À quel hommage là, il utilise tout son talent d'orateur pour la mettre over. Et puis voilà. Après Bianca, c'est assez classique, hein. Elle a dit que voilà, ils ont volé le show. L'histoire classique, ne découragez jamais, croyez pas qu'il y ait des trucs impossibles, on peut toujours y arriver si on travaille dur. D'ailleurs, elle a été assez, respectueuse de Sasha Banks en lui disant, c'était à deux qu'on l'a fait ce main event, je pouvais pas le faire toute seule, mais bon, quand même, on reste compétitrice, hein, si t'as envie qu'on se batte, tu t'en reprendras une. Par contre, Sasha Banks, effectivement, elle est pas du tout dans le mood, on a fait le gros main event, on a volé la soirée, tout ça, hein, elle vénère. Très vénère, pas un mot, contrairement à celle qui arrive après, la Bailey, qui a peut-être un peu trop ouvert sa gueule. Mais c'est une célébration émouvante, je trouve, méritée.
Ouais, voilà, c'était une petite variation un peu. Bon, elle n'a pas encore de personnage bien défini, Bianca Belair, mais en tout cas, là, elle est championne et elle a joué la carte de la franchise. Un peu casser le quai faible là, avec son amoureux et tout ça. Derrière Sasha Banks qui est pas contente. Effectivement, moi je trouve que c'est bien qu'elle soit pas là à dire on a volé le match, on a volé la soirée, show stealer et tout ça. Elle est vraiment énervée d'avoir perdu. Et effectivement, Bailey, j'en ai pas parlé, mais elle lance un challenge à Bianca Belair. Hein. Elle
va, ouais, quand même. Elle va venir rien, chercher Bianca.
Voilà, bam. On nous remonte ça entre deux. Enfin, on nous montre cet extrait et c'est entre deux passages où on nous remonte le UFO de Cesaro sur Seth Rollins.
Ah, mais il le fait tourner comme ça, là.
Il le fait tourner sans les mains, comme ça, c'était à WrestleMania.
Assez
impressionnant. Bah, entre deux séquences, là, il y a Bailey qui vient effectivement lancer un challenge à Bianca Belair. Alors, c'est pas Ding Dong Bailey, hein. Elle était vénère, elle veut son match, hein.
Souvenons-nous qu'elle avait. On avait eu le concours de force, là, hein, où Bianca Belair avait soulevé Otis et Tucker d'une seule main, je crois. Et je sais pas si elle les avait pas fait tourner au-dessus de sa tête.
Ouais, ça. C'est ça, dans un UFO. Très impressionnant.
Très impressionnant, ouais.
Ouais, et ben voilà, on aura sûrement un Becky, enfin Bianca Bailey, incessamment sous peu. Ouais, tiens, pas de Becky Lynch depuis la fin de WrestleMania. Enfin, j'ai pas vu Raw en entier, mais je crois pas qu'elle soit arrivée à Raw.
Non.
C'est Charlotte hein, qui était de retour.
C'est Charlotte, voilà.
Qui n'était pas vraiment partie, mais elle est de retour. Allez écouter notre review, hein, demandez Nitro, évidemment. Donc, les Street Profits affrontent les Dirty Dogs. C'est les Dirty Dogs qui gagnent. Alors, je t'avoue que j'ai pas trop suivi le match, ça avait l'air super. Ils ont triché, les Dirty Dogs, pour gagner ou,
Non, même pas.
Même pas.
Ah, ça, c'est même pas. Bien, ça. C'était un bel affrontement relativement clean. Oh, ils ont triché, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça a été un peu le bordel, où tout le monde s'est mis un peu sur la gueule de nos côtés. Et puis, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est Robert Roode qui est en train qui fait un gros From the Heaven sur. C'est Montesfort qui fait un gros splash là, sur Robert Roode. Et puis Robert Roode, il roule dans le coin du. Enfin, non. Montesfort tente le tomber parce que d'habitude il gagne sur cette prise, mais Dolph Ziggler il brise le tombé. Robert Roode, il a le temps d'aller glisser dans le coin. Montesfort, il s'acharne un peu sur Robert Roode parce qu'il est vénère, mais il voit pas qu'il y a le tag qui est fait, donc il prend le zigzag. Et puis voilà, ça, je pense que ça fait longtemps. Oh, non, j'en sais rien en fait, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que Dolph Ziggler il a pas gagné sur son bon vieux zigzag tout simple, son finisher des bons vieux temps. Donc relativement clean quand même. Relativement clean. C'est pour ça que je me demande maintenant. Là, si les Street Profits, ils commencent pas à avoir grillé toutes leurs cartouches, quoi.
Bah ouais, moi j'aurais bien vu reprendre le titre comme ça, out of nowhere. Ça leur aurait pas fait de mal, je veux dire, c'est pas bien grave. Les Dirty Dogs, ils perdent le titre là maintenant. Mais bon, non, bah les Dirty Dogs conservent. Les deux vétérans, là, qui sont solidement imposés dans la division tag team. Il va falloir faire un peu plus de la part des Street Profits pour aller leur chercher le titre. Par exemple, ils pourraient faire un UFO. Hein, faire tourner leurs adversaires comme ça autour de leur tête, comme l'a fait Cesaro, on nous le remontre, cette séquence, je sais pas si tu te souviens, ça a marqué les esprits.
Ouais, c'est impressionnant. Ouais.
C'est impressionnant. Alors, on nous confirme que Cesaro ira bien affronter Jey Uso. On voit Roman et compagnie là dans leur loge. Mais ce qui se passe ensuite, c'est un affrontement entre Natalia et Shayna Baszler.
Ça, c'est du vrai main event.
Ça, c'est du vrai main event, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Il y a Tamina du côté de Natalia, Nia Jax du côté de Shayna Baszler. Alors, je sais pas si tu as eu la même chose, mais moi, j'avais une version où il y a eu un test de sécurité de Rhode Island.
J'ai eu la même chose, oui.
Du système d'alerte d'urgence. C'était marrant. Je savais pas qu'on faisait des trucs comme ça. Ces systèmes d'alerte, tu sais, pour alerter les gens via la télévision, bah, ils font des tests de temps en temps. En plein SmackDown. Bref. Victoire de Natalia sur Roll-Up.
Extraordinaire.
Nia Jax veut attaquer Natalia, mais elle se fait repousser par Tamina. Je crois qu'on a déjà vu cette séquence hein, la semaine dernière, mais je suis pas sûr.
Pas tout à fait ça, mais un peu la même chose. Honnêtement, c'était un des meilleurs moments pour faire un test micro sono de Rhode Island, je trouve.
Bien placé. Ouais, je sais pas où ils veulent en venir, puisque finalement, elles ont perdu Natalia et Tamina à WrestleMania. Hein, elles ont gagné le tag team turmoil et puis elles se sont inclinées face aux championnes.
Donc, ouais, on en a parlé avec l'ami Tonton Chris à la review de Monday Nitro, c'est-à-dire que ces championnes-là, comme elles sont championnes, elles sont partout,
ouais.
Mais on en bouffe, hein, mais c'est pas... Voilà, quoi, c'est-à-dire que là, Raw, elles sont venues se foutre de la gueule de Mandy Rose et qui s'était cassé la gueule parce qu'elle avait glissé, avec Nia Jax qui glisse au bord du ring, c'était très mal fait. Et là, j'ai trouvé pareil que le segment où Nia Jax, elle voit Shayna Baszler qui est en train d'être prise dans le sharpshooter, donc elle monte sur le rebord du ring, et puis elle reste là, un peu comme un poteau, là. Nia Jax, il la fout partout à l'écran, et je sais pas, c'est un peu pour foutre de sa gueule, pour lui faire faire des segments pourris, mais c'est pas terrible, quoi, je trouve. Dans l'acting, là, elle est restée là, je pense, bien 30 secondes sur le bord du ring, mais elle on a l'impression qu'elle parlait ni à l'arbitre, ni à... J'ai juste, elle était là, donc du coup, ça a déconcentré les autres. Et puis bon, après, il y a eu ce roll-up. Mais ouais, et les championnes, on les voit. Hein. Cette création de cette ceinture, elle donne de l'exposition, hein, pour le coup, celle-ci.
Ouais, ce règne-là, il leur aura permis d'être là, vu un peu partout. Alors c'est dommage, parce que c'est quasiment que pour faire des trucs nuls. C'est la low-card, hein. C'est une ceinture de low-card, je sais pas. Il n'y a pas vraiment d'évolution, que ce soit du côté de Nia Jax ou de Shayna Baszler, dans le bon sens. Ça régresse même plutôt.
Ouais, parce que moi je me souviens de quand elles prennent le titre contre, contre Sasha Banks et Bayley, ça c'était un gros match. Hein.
Ouais. Mais en même temps, c'était contre Sasha et Bayley.
Voilà.
C'est quand même plus laborieux à WrestleMania le match contre Natalia et Tamina, donc je pense quand même qu'ils ont été au maximum de ce qu'ils pouvaient tirer de Natalia et Tamina. On était content, mais ça dure qu'un temps, hein. Si c'est pour perdre à WrestleMania, c'est pas vraiment la peine de continuer. Voilà, le but c'était de mettre over Shayna Baszler et Nia Jax, ça a pas marché, c'est pas la peine d'insister. Peut-être partir sur autre chose, hein. J'aurais bien voulu voir Mark Carmella et Biggie Kay. Mais ce sera pas du tout à l'ordre du jour, finalement.
Non.
Donc, c'est vraiment. Ça, c'est mal joué. Hein. Il faut qu'on veut un peu du sang neuf, là. On veut des trucs nouveaux. Hein. Dans cette division tag team, c'est pas du tout satisfaisant.
Non.
Tiens, je sais pas si tu te souviens, à WrestleMania, il y a Cesaro qui fait tourner Rollins autour de lui, ça s'appelle le UFO.
Ouais, c'est comme l'OVNI.
Comme l'OVNI.
Il s'est pris pour Jules. C'est impressionnant, en vrai.
Impressionnant, ouais. Ouais. Roman Reigns dans sa loge. Il y a Jey Uso qui fait une promo. C'est l'heure de Jey Uso de faire la promo. Il dit dis donc, Cesaro, tu fais le malin, mais ton UFO, là, tu sais le faire sans tes dents. Hein, si je te fais bouffer tes dents, t'arriveras à le faire tourner au-dessus de ta tête sans tes mains, là. Tu vas voir pourquoi on m'appelle le main event. Et Roman Reigns, genre j'écris, on va te monter, nous dit Roman, mais j'ai dû me tromper. On va te montrer qui on est.
Ouais.
Et voilà, donc Roman Reigns face caméra aussi, hein, qui met un peu le point final à la discussion.
Extraordinaire.
Ouais. Avant qu'on nous remontre, évidemment, le UFO de Cesaro sur Seth Rollins, en nous disant faites bien attention à. Écoutez le son de Seth Rollins.
Ah oui, Seth Rollins, il fait
Impressionnant. Jey Uso contre Cesaro, c'est l'heure du main event. Donc évidemment ça se fout joyeusement sur la gueule. On a un joli springboard cross-crew uppercut de Cesaro pour le compte de 2. Un peu plus tard, un side slam neckbreaker pour le compte de 2 aussi de la part de Jey Uso. Je sais pas du tout si c'est le bon nom des prises, hein, c'est moi qui invente. Cesaro va faire le swing sur Jey Uso. Il va ensuite lancer un tornado clothesline pour le compte de 2. Alors qu'il est en train de tenter le swing, qu'il y a Seth Rollins qui débarque pour l'attaquer.
Oui, c'est dans l'autre sens. Il fait la clothesline d'abord, effectivement.
C'est ça. J'ai pas mis les choses dans l'ordre. Donc voilà. Pendant le swing, Seth Rollins, contre toute attente, Seth Rollins débarque. Il vient attaquer Cesaro. Il a pas du tout digéré la défaite de WrestleMania. C'est la disqualification de Jey Uso, forcément. Et c'est pas terminé entre Rollins et Cesaro. C'est ce que nous explique Rollins sous le titantron. Là, il fulmine de colère. Et c'est là-dessus que se termine le show. Le retour inattendu de Seth Rollins, qui était pas vraiment parti, mais qui en a pas fini avec Cesaro. Convaincu par ce main event.
Oui, alors plusieurs points. Déjà 10 minutes 20, donc c'était un main event court, mais correct. Moi, j'ai trouvé que le match était plaisant. De toute façon, on l'a dit, hein, c'est le problème de Jey Uso en main event, c'est pas que les matchs sont mauvais, c'est que c'est un peu toujours la même chose. Il est là toutes les semaines, tout le monde fait un gros match, tout le monde fait des belles prises, que ce soit Daniel Bryan, Kevin Owens ou tout ce que tu veux, mais le finish est un peu... Là, c'était une disqualification, mais Cesaro avait quand même pris le dessus. Il y a eu des beaux moves, hein, comme tu les as décrits, dans le Sam One Drop d'un côté, Cesaro qui fait gut wrench suplex depuis le turnbuckle. Effectivement, les uppercuts, il les fait dans un sens, dans l'autre, il tourne sur lui-même. Rollins s'est apparu dès qu'il y a eu le swing. Ça faisait vraiment très... le mec, il supporte plus de voir ça. C'est vraiment... Voilà. Et par contre, petit souci technique, hein, c'est que Rollins, il part sur la rampe, là, il commence à gueuler, et puis hop, on nous fout les ralentis. Donc Rollins était en train de dire « Ouais, Cesaro, c'est pas… » Et hop, on revoit les ralentis du match, et du coup, après, il a repris sa phrase « C'est pas fini tant que c'est pas moi qui ai dit que c'était fini. » Et retour un peu inattendu, parce qu'on pouvait s'attendre à ce que Rollins traîne dans les parages, mais… on a eu tellement de no-show cette semaine des perdants. C'est vrai que c'est une semaine lourde pour les perdants. On n'a pas vu Bryan, on n'a pas vu Edge, on n'a pas vu Big E. Il y a des gagnants qu'on n'a pas vu non plus. D'ailleurs, à Raw, on n'a plutôt pas vu des gagnants puisqu'on n'a pas vu Sheamus, on n'a pas vu Omos et tout ça. Mais voilà, il y a des absents cette semaine. Et Rollins aurait pu faire partir de ces absents-là. Je pensais qu'on allait peut-être pas le voir pendant quelques semaines si Cesaro devenait un adversaire de Roman Reigns. Donc là, je trouve que par contre, ça devient très intéressant parce que Cesaro, il a quand même lancé là des pistes quoi pour une feud contre Reigns. Donc je pense qu'on va la voir cette feud. Mais par contre, il a encore Rollins qui le traîne en arrière en lui disant attends, c'est pas fini. Donc putain, il va avoir de quoi bouffer Cesaro pendant les prochaines semaines. Là, je suis pas inquiet, on va le voir catcher. Étonné par contre effectivement que bon ben Reigns, Jey Uso, rien quoi, ils ont, une fois qu'il y a eu Rollins qui est passé, ça a fini le show. Rollins très beau, très classe, très beau costume, donc je suis assez intrigué de voir là Cesaro, ils ont l'air de lui donner une grosse adversité et tant mieux, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va avoir une sorte de, ça aussi hein, ennemi commun, est-ce que ça fait des amis, est-ce qu'on va voir Rollins et Reigns se rapprocher, ça m'intrigue aussi.
Ouais, les anciens du Shield.
Voilà, avec le troisième autre con là, dont on ne se souvient plus le nom.
Il y avait un troisième.
Ouais, mais c'est. Non, c'est pas celui qui est mort. Non, il est toujours vivant, lui. Je sais plus.
Toujours vivant, ouais. Bon, on va savoir. Le mari de René Young.
De la Hall of Famer.
Ouais.
De Brie Bella.
Comment il s'appelait Raymond Young, un truc comme ça.
C'est ça.
Cesaro. Contre Rollins et contre Roman Reigns en même temps. Et puis il faut qu'il ait une victoire face à Rollins.
Ah bah oui, bah il en a une déjà, ouais.
Déjà une, il faut qu'il finisse de lui damer le pion pour aller dans le main event. De toute façon, il faut pas lâcher sur Cesaro, il faut continuer là, ça fonctionne. Ah bah oui. Il a fait un super match à WrestleMania. Il a eu ce WrestleMania moment avec une prise, je sais pas si tu connais le UFO. Où il fait tourner son adversaire comme ça au-dessus de sa tête sans les mains.
Ah ouais. À mon avis, il ferait bien de la montrer encore une fois parce qu'elle était cool.
Ouais, c'est vrai.
Il a eu son feel-good moment, quoi.
Voilà, il ne montre pas ça assez souvent. Donc voilà, il faut continuer. On va aller jusqu'au bout. Et voilà, s'il arrive à battre Seth Rollins, après, il peut se casser les dents sur Roman Reigns.
Ouais.
Et ça fait beaucoup de monde qui se casse les dents quand même sur Roman Reigns. Mais j'ai l'impression que Roman Reigns, il va pas lâcher la ceinture tout de suite. Je le sens quand même parti pour un gros reign qu'il a jamais eu encore. Hein. Roman Reigns, il a jamais gardé la ceinture bien longtemps. Mais là, je pense que vu la position qu'il a maintenant dans la WWE, après sa grosse victoire là, à Mania, à mon avis, il garde de la ceinture jusqu'à l'année prochaine et il perd éventuellement sur Money in the Bank. Quoi.
Ouais, ça, on va en discuter puisque nous avons eu des questions et réactions du public. Donc, on parlera de la question.
C'est ça.
De notre ami Gilou qui nous a demandé justement quel est le meilleur pay-per-view pour envisager la perte de titre de Roman Reigns. Bah tiens, on va la traiter maintenant hein, si ça te dérange pas.
Bah, allons-y, avant de passer sur le mot de la fin, sinon voilà. Le mot de la fin ne serait plus le mot de la fin.
C'est ça, effectivement Gilou lui il disait que pour lui c'est Money in the Bank. Alors moi là où je tempérais notre ami Gilou, c'est que moi je pense que Roman Reigns peut être victime d'un cash-in, mais pour moi il faut pas que ça soit la nuit du Money in the Bank. Moi j'aime bien de temps en temps, quand il y a un mec qui cash in la nuit même de sa victoire, comme justement Monsieur René Young, mais j'aime bien que pour moi c'est un peu comme gagner un King of the Ring, le Money in the Bank, ça fait partie de ta gimmick ensuite, donc c'est bien que les mecs les gardent quelques semaines
continue, excuse-moi, mais tu
oui. Je ne sais pas ce que
je t'expliquerai pourquoi.
D'accord. Mais je veux dire, par exemple, moi, je trouvais ça vachement cool. Brock Lesnar qui faisait le malin avec sa mallette. Mm. Le Miz quand il a sa mallette. Enfin, voilà, pour moi, c'est cool d'avoir un porteur de mallette qui se balade avec sa mallette, qui fasse un peu peur. Alors, c'est pas toujours très bien fait. Ça, je suis d'accord. Mais quand le cash-in se fait le soir même, je trouve que. Ah, du coup, après, t'attends. Tu te dis, il faut encore une année avant qu'on ait un porteur de mallette. Donc moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais voir Reigns perdre. Pour répondre à Gilou, j'ai envie de dire n'importe quel pay-per-view est bon pour faire perdre Roman Reigns. Mais il faut qu'il y ait un gros vainqueur, il faut qu'il y ait un gros champion. Et puis, à mon avis, Roman Reigns a besoin d'un règne long. Mais c'est vrai que là, on dit ça, ça fait depuis SummerSlam, ça commence à être un bon règne long. Quoi. À mon avis, Moi, je suis pour qu'il boucle une année champion. Donc, bah tiens, par exemple, il pourrait perdre dans un Hell in a Cell ou sur un cash-in. Sami Zayn qui cash-in sur Roman Reigns, moi, je trouvais ça rigolo, ouais.
Ah, il survient à Hell in a Cell et puis il se fait cacher derrière.
Par exemple.
Ouais, non, moi, je pense qu'il lui faut quand même un règne assez long, au moins à l'image de ce qu'a eu John Cena à son époque, où je ne sais plus combien il avait fait, 300 et quelques jours, ou CM Punk quand c'était le Summer of Punk.
Ouais.
Ou même Lesnar, il est resté champion quand même assez longtemps, je crois. Il faut quand même ça pour l'imposer définitivement. Puis je vois pas qui pourrait lui prendre la ceinture là à l'heure actuelle.
Bah, c'est le problème.
Ouais, j'aurais pu aimer Kevin Owens au début, mais là visiblement ils veulent vraiment l'imposer comme le nouveau gros patron. Et puis derrière il assure à mort, donc ce serait pour moi ce serait logique de le faire conserver. C'est un peu plus, tu vois, c'est un peu plus problématique par exemple avec McIntyre. On le voit tout de suite, quand il perd le titre, ça entame quand même un petit peu l'image du personnage, quoi. Même si on est content d'avoir Bobby Lashley en champion, il est aussi vachement crédible. Ça m'aurait pas déplu de voir McIntyre quand même gagner à Mania et rester le mec costaud qu'il est, tu vois, en opposition.
Ça, c'était un gros dilemme, je trouve. Ça concerne Raw, mais effectivement, c'est ce que MVP a dit d'ailleurs. Il n'y a pas de honte à être numéro 2 quand Lashley est numéro 1, mais là, pour moi... Mais en gros, il y a deux numéro un, quoi. Et c'est un peu un déchirement d'en choisir un. Et la logique veut qu'on le donne à celui qui était un peu le nouveau, là, puisque Drew sort quand même d'une énorme année. Mais c'est vrai que Drew n'a pas réussi à surmonter la montagne et a pu avoir son WrestleMania moment cette année, là, avec du public. Dommage.
Ouais, dommage. Parce que moi, pour moi, dans la logique, ça ne m'aurait pas déplu de voir gagner McIntyre, parce que Il a pas eu beaucoup de prestige à gagner le titre, Lashley. Il a battu le Miz.
Oui, en plus.
Tu te fais bien fait. Voilà, quitte à lui redonner le titre après sur une grosse victoire. Mais là, je trouve que ça entame un petit peu l'émail de McIntyre. Alors que d'un autre côté, Roman Reigns, lui, il est sorti grand victorieux et définitivement imposé. Là, maintenant, il est vraiment au top du top, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi, d'autant plus que je trouve, au final, c'est assez rare. C'est une sorte d'inversion. En général, c'est souvent le heel, le méchant, qui a le titre. Et puis, ce qu'on aime bien, c'est voir le face qui essaye de prendre le titre. Ouais. Et je trouve qu'Aro, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que Drew, il est parfait avec le titre. Et que Bobby Lashley avec MVP vénère, très énervé, ils sont mieux dans le rôle de ceux qui veulent prendre le titre.
Ouais.
Et donc, j'aurais bien aimé, effectivement, que ça se réinverse. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, à SmackDown, c'est ça qui me fait un peu peur, entre guillemets, pour un long règne de Roman Reigns. C'est quel challenger, et Cesaro fait un beau challenger, mais Cesaro, si son push c'est juste perdre contre le champion, bon, bah après il pourra peut-être devenir, il pourra aller battre Apollo Crews peut-être dans 2-3 mois éventuellement, mais qui est top face là à SmackDown, qui est baby face, est-ce qu'on peut réussir à reconstruire Big E contre Roman Reigns, et moi je vois pas trop d'autres noms, quoi, ou est-ce que tu fais émerger un rival vraiment genre Mysterio, pourquoi pas, pour un pay-per-view, tu vois, un truc du genre, mais qui sinon c'est chaud, quoi. Y a pas mal de mecs sur la scène tag team. Ou alors on fait une grosse surprise, quelqu'un arrive d'NXT, effectivement.
Ouais, mais qui de NXT ? Même NXT, je vois même personne.
Non, alors...
Susceptible d'être crédible, je veux dire, c'est pas Adam Cole qui va...
Non, j'allais dire Keith Lee, mais qui est déjà dans le roster, mais qui est un peu...
Ouais, faire passer Keith Lee à SmackDown et tenter un truc.
Ouais.
Ça, ce serait pas mal. Bah, ils ont quand même été chercher Daniel Bryan et Edge pour avoir des compétiteurs crédibles face à Roman. Ouais, c'est sûr que là, moi, j'aurais bien vu Samoa Joe, hein, du coup, comme tu disais.
Ben oui, ben voilà.
En mode Samoa Joe en mode babyface, ça aurait été pas mal. Vraiment pas mal. Bah là on va voir, hein, ça du coup c'est le push de Cesaro, donc voilà, bah pour répondre à la question, n'importe quel pay-per-view mais plutôt sur un cash-in de manette. Et ce qui m'a fait flipper, ce que tu disais, c'est, je voyais quand tu disais que le Money in the Bank c'était un peu comme le King of the Ring, du coup j'ai peur de voir le Baron Corbin gagner la manette, mais il l'a déjà gagné une fois, lui,
oui,
si je dis pas de bêtises. Il devrait pas le réitérer, l'exploit, quand même.
Non, puis il a quand même raté son cash-in sur Jinder Mahal, donc c'est... Jinderman, je pense que c'est il a de la chance d'être indien, enfin d'être d'origine indienne, puisqu'il est canadien, pour avoir évité la charrette, hein, lui aussi, parce que
c'est ça,
à moins que, voilà, tiens, on en parle, mais il a quand même été champion du monde, alors ouais. que personne s'y attendait. Et pourquoi pas Jinderman qui reviendrait affronter Roman Reigns une fois, se faire un peu laminer la gueule. Non, plus concrètement, moi je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être avoir, à cause de ce pay-per-view qui s'appelle WrestleMania Backlash, on va peut-être avoir la semaine prochaine ou celle d'après un retour d'un des deux perdants.
Ouais.
Peut-être Edge, enfin. Peut-être qu'on va enfin l'avoir, ce Edge contre Reigns. Mmh. Et pendant ce temps, Cesaro, lui aussi, il aura encore Seth Rollins. Donc ça fera deux Backlash, deux revanches de WrestleMania. Et après, on partira sur autre chose. Voilà. Mystère, mais je le sens bien comme ça, quoi.
Ouais, voilà. Ça paraît très logique, hein. Sauf si ils appellent le pay-per-view Roman Reigns, mais il a l'air de vouloir bosser quand même. Donc, il y a des chances que ça reparte là-dessus. Sur un Edge Roman Reigns, ce serait pas mal. Autre question de ce bon vieux Gilou. Voyez-vous une création des autres équipes, que ce soit chez les hommes ou les femmes? Une création de nouvelles équipes, en gros, chez les hommes ou les femmes? Bonne question. Moi, je voyais bien Carmella Biliqué, mais du coup, ça s'est tombé à l'eau.
Ouais. Moi, je trouve que sur la scène féminine, c'est assez difficile à évaluer parce que les championnes sont dans les deux, voire trois divisions, parce que des fois, elles vont faire coucou à NXT. Mm. Donc, en fait, j'ai pas l'impression qu'il manque d'équipe. Puisque déjà quasiment c'est forcément une équipe versus les championnes quasiment, donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipes. C'est vrai qu'au niveau féminin, moi j'aurais bien viré le Riot Squad.
Au moins en faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire avec Liv Morgan, je pense.
Liv Morgan. Tu sais quoi, on vire l'autre punk à chien là. Mais on fait une tag team. Moi j'aimerais bien revoir Nikki Cross, moi. Donc Nikki Cross, Liv Morgan.
Tout à fait. Ouais. Mais après, les filles, elles sont dans la division, elles sont vachement liées les unes aux autres. Hein. C'est pas comme chez les mecs où je pense qu'ils se marchent dessus pour arriver au main event. Visiblement, elles sont solidaires. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Les unes des autres. Dans le documentaire qu'il y a eu sur Liv Morgan, on voit qu'elle était quand même très liée à Ruby Riot et à la troisième, Sarah Logan. Par exemple, Alexa Bliss, quand elle a été en interview avec Sasha Banks, c'était avec Corey Graves à l'époque dans une vieille interview, quand on lui disait si devait y avoir un main event féminin à WrestleMania, il n'y avait pas eu encore à l'époque. Alors autant Sasha Banks elle était prête à faire le main event, Alexa Bliss elle disait ce serait bien si on faisait un main event qui ait toutes les filles dedans. Il y a un truc qui est lié, donc je pense que elles sont contentes d'avoir une division tag team, que ce soit en WoW Show ou en chose comme ça. Ça donne un sens au match qu'elles font. Mais du coup, voilà, s'ils séparent encore une fois Liv Morgan de l'autre punk à chien, comme on l'aime à l'appeler, elle sera malheureuse, je crois.
Bien sûr.
Et ça donnerait pas. On a même vu avec Billy Kay et Peyton Royce, hein, ils n'avaient pas l'air très joyeuses d'avoir été séparés.
Ça reste un grand mystère, moi, cette décision. Hein.
Ouais. Quand tu regardes justement le documentaire sur Liv Morgan, des questions tu t'en poses, hein, sur comment ils bouclent les filles et quels sont leurs projets, parce qu'elle passe 6 mois à attendre que ça se passe. On lui dit t'as un match ce soir, elle arrive, on lui dit non, le match il est annulé, alors que c'est censé être son gros retour. Elle se crée un nouveau personnage, mais ils l'utiliseront, ils vont la faire revenir, mais pour une semaine. Puis finalement, ils la remettent en tag team. Disons qu'il ne faut pas chercher la petite bête, hein, une fois que tu es là dans cette division. Puis ça doit être quand même très difficile de s'imposer dans la division féminine avec des cadors au-dessus comme Charlotte, Sasha Banks, Bayley qui sont d'un autre niveau.
Ouais, et puis on peut le dire, mais autant les femmes en solo ont été mises dans les divisions tag team pour occuper un peu, notamment Bayley et Sasha Banks. Autant là, de mémoire, j'ai pas de. Un peu Alexa Bliss, mais c'est encore autre chose, de meuf qui est démarrée en tag team et qui est réussi après à émerger un peu en solo. Pour le moment, c'est la division tag team est trop récente, je pense, pour qu'on assiste à ça. Mais tu vois, même Carmella, qui a été bookée un peu repackagée, grand retour en mode sexy, intouchable, tout ça. Là, on la voit plus. C'est limite elle qui a eu de la chance d'avoir Billy Kay à WrestleMania parce qu'on la voit plus. Je sais pas. Alors, création d'équipe pour répondre à Gilou, chez les filles, je vois pas trop qui. Ouais. Chez les hommes, par exemple, je trouve qu'à SmackDown, on en a pas forcément besoin puisqu'il y a toute cette, il y a déjà une belle dynamique avec la Alpha Academy, avec les Mysterio. Voilà, dans un show comme SmackDown,
il y a déjà de quoi faire.
Raw, on peut en parler, mais il y a une équipe qui est revenue. Il y a les Viking Riders. Il y a Omos et donc AJ Styles. Il y a le New Day. Il y a les guitaristes, là, Elias et tout ça. Je sais pas en fait si c'est toujours pareil. On pourrait créer une équipe. Moi j'aimerais bien qu'un jour, on n'y est pas encore, hein, mais que Kevin Owens et Sami Zayn soient une vraie tag team et un beau run. J'aimerais bien que Morrison et le Miz soient plus dans la division tag team aussi. Mais donc est-ce qu'il y a besoin d'en créer d'autres? Je ne sais pas. Corbin peut-être pourrait.
Ouais, Corbin, ce serait bien de le mettre en tag team. Bah, pourquoi pas avec Jinder Mahal? Il ferait une équipe de gros bourrin. Ça fonctionnerait pas. Ça fonctionnerait bien. Enfin, ça fonctionnerait pas, sûrement. Mais on peut y croire. On peut y croire. Une équipe de gros costauds comme ça.
Ouais, moi j'avais bien aimé Jeff Hardy et Matt Riddle. Je trouvais sympa l'histoire de l'un qui était l'idole de l'autre. Et puis les Hardy Bros, je trouvais ça rigolo le nom. Et je trouvais ça bien pour Matt Riddle de débuter un peu en tag team. Mais visiblement, ils ont décidé que Matt Riddle, il était en solo, il était largement assez bon. Et que Jeff Hardy, il était sûrement beaucoup trop cassé. Tiens, d'ailleurs, Jeff Hardy aurait pu faire partie aussi de la charrette. Hein. Ils doivent pas oser, je pense.
ils ont pas pu le réveiller parce qu'il était.
Ouais. Soit ils le gardent parce qu'ils savent que s'ils le virent, il part chez la AEW j'espère que la bande à Cody fera le gros décorum, même s'ils sont cassés de partout sur les frères Hardy reconstitués, parce que ça, c'est quand même une attraction. Mais c'est fou quand même, tu vois, il n'y a même pas un an, Jeff Hardy, c'était l'histoire de la feu de Redemption, alcoolisme, le revoilà, il est en pleine forme, il bat Sheamus et tout. Ah, ça va vite hein, dans le catch, là, maintenant, il est reparti.
Parce qu'il n'était pas du tout là, en vrai, seule manière.
Non, il n'était pas là nulle part, je suis même pas sûr qu'il...
Même pas dans la Battle Royale.
Non, je crois pas, non. Okay. Bah allez, voilà. Dernière question de Gilou.
Ouais, quel futur pour Bayley?
Quel futur pour Bayley? Bah écoute, Gilou, tu nous en poses une bonne... Surtout que Bayley, elle vient de défier Bianca Belair. Donc Bayley, quel futur, comme son passé, je pense. Hein, elle va continuer d'être une main eventeuse et de faire des gros matchs de temps en temps, d'avoir des ceintures. Après, voilà, elle a réussi. Si, c'est bien, je trouve, à créer un peu ce show-là, le ding-dong hello. Il faut peut-être qu'elle en fasse un ou deux de plus de temps en temps. Un peu comme quand Alexa Bliss avait son moment of bliss avec la tasse de thé et tout. Là, il faudrait qu'elle crée des moments où il se passe des trucs... des ailes de baston et tout, mais sinon, Bayley, moi, j'ai aucune inquiétude pour elle. Là, elle a fait un an de championne, double championne avec les titres féminins et les titres solo. Là, elle s'est reposée un petit peu, et puis dans l'été, elle va repartir. Hein. J'ai pas d'inquiétude.
Ouais, là, elle va aller mettre over Bianca Belair encore une fois, visiblement. Et puis, elle a quand même réussi à être présente à WrestleMania sans avoir de match. Et on l'a quand même remarqué. Elle a eu son petit WrestleMania moment. Elle a vraiment son personnage qui est bien imposé dans le roster. Un peu, moi, pour moi, c'est un peu la Chris Jericho féminine.
Ouh, tu vois, quand même.
Ouais, écoute, elle a son highlight reel.
C'est vrai.
Elle vient, elle est une méchante super ridicule, mais qui fait des gros matchs. Donc, pareil, j'ai aucune peur pour l'avenir de Bayley. La semaine prochaine, on apprendra qu'elle a été virée. Et on fera moins les malins. Pour te répondre, je pense qu'elle va rester bien présente. Et puis, peut-être même retourner à Raw. Mais je suis même pas sûr parce que je pense que c'est peut-être les exécutifs de la Fox qui demandent à ce qu'elle soit présente à SmackDown. Ou du moins, elle fait partie des gros noms qu'ils aiment bien avoir dans le roster quand même.
Ouais, de toute façon, maintenant, alors à moins que je me trompe, hein, mais. Il n'y a plus vraiment le draft post-mania, hein. c'est plutôt ce qu'ils appellent le check-up un peu dégueulasse là, c'est plutôt à la rentrée hein, de mémoire.
C'est plutôt en septembre qu'on aura un truc, je pense, pas une montée non plus d'NXT là, cette année, mais bon, on en reparlera justement, puisque c'est l'heure du mot de la fin.
Ouais.
Il faut qu'on donne notre top, notre flop et notre note. Dis-nous tout, qu'est-ce qui t'a fait kiffer et puis qu'est-ce qui t'a déçu dans ce SmackDown historique post-mania?
Eh ben, écoute, mitigé, et comme tu l'as dit, très très surpris, on clôt une semaine post-WrestleMania sans véritable gros retour, sans véritable grosse montée. Pour moi, Charlotte, c'est pas un retour, hein, elle a passé 2 semaines absente parce qu'elle avait la grippe ou le Covid ou on ne sait pas, mais c'est pas un vrai retour. C'est comme si tu disais effectivement que Seth Rollins a fait son retour là, mais non, donc assez surpris, on était sur un show vraiment inhabituel. Je pense que c'est l'absence de public, hein, clairement, qui joue, parce que d'habitude, la semaine post-WrestleMania, en plus, on est souvent encore dans la même ville, il y a le feu, tout ça.
Ouais.
Honnêtement, je suis même pas sûr, tu vois, une montée d'NXT durant le Thunderdome, genre, je sais pas moi, un mec hyper populaire, style, bah, comme tu dis, Adam Cole ou Finn Balor qui revient, dans le Thunderdome, ça fait pas pareil, quoi. On peut pousser le son à fond pour qu'on
croit qu'il y ait une...
Donc c'était un peu plan-plan quand même, hein. Moi j'ai même ambiance carreau, hein, ambiance un peu fin de soirée dans la salle des fêtes, on finit les restes avec les mecs qui veulent encore se mettre sur la gueule comme Sami Zayn, Kevin Owens, tout ça. Moi j'ai mis le top à la célébration de Bianca Belair, même si effectivement ça n'a pas fait avancer grand chose, mais voilà, ça j'ai trouvé que ça bien. J'aime bien quand il y a des vraies célébrations de temps en temps, c'est-à-dire pas celle où le heel intervient en plein milieu pour casser la gueule, un vrai moment qui se clôt bien, un vrai hommage. Mon flop sera à Nia Jax et à son acting toujours aussi dégueulasse. J'ai mis la mauvaise note, la moyenne note de 2,25. La principale satisfaction du show, c'est Roman Reigns, toujours et encore, dans son acting et dans sa présence. Et la satisfaction de voir Cesaro, qui va avoir un énorme emploi du temps, là, je pense. Donc, très content. Mais quand même, ouais, je sais pas, moi, je suis toujours un peu dans le feu quand c'est post-WrestleMania, parce que tu dis, ah, il y a WrestleMania qui finit, mais c'est encore un peu le... Il y a encore des surprises, quoi, qui nous attendent. Et là, des surprises... Ça a manqué énormément de surprises. Ouais. Donc, assez déçu quand même par cette semaine de pause WrestleMania. Et je me demande si, à la place d'une semaine pause WrestleMania, on va pas avoir une sorte de saison post WrestleMania où on va peut-être avoir des petites montées d'NXT dans les semaines à venir, ou peut-être même suite au prochain pay-per-view. Parce que s'il s'appelle WrestleMania Backlash, c'est peut-être le prochain pay-per-view qui va vraiment clore des rivalités et où on va enchaîner sur autre chose derrière. Je ne sais pas, mais. Là, on n'est pas encore dans une vraie dynamique de nouvelle saison, je trouve. Hein. On a les mêmes beaucoup de feuds qui continuent. Là, les Canadiens, les Rollins et Cesaro, les Mysterio, les tag teams, tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment cette sensation de new season, quoi.
Ouais, comme tu dis, ça ressemble à ça. Je n'ai pas l'impression que la saison a été clôturée avec WrestleMania. Et ben c'est un peu le reproche que je vais faire des tops et des flops un peu généraux.
Vas-y, dis-nous. Comme général Aziz, non, Commander Aziz, pardon.
Commander Aziz, mais comme un general manager de SmackDown. Ouais, parce que j'ai rien, il y avait rien de vraiment mauvais.
C'est vrai.
Il y avait rien de vraiment exceptionnel.
C'est vrai aussi.
Qui m'a bien plu, je vais dire, c'est la qualité des matchs en général. Je trouve que tous les matchs ont été bons. Même le Natalia Baszler, pour le peu que ça a duré, c'était efficace. Il y a eu du beau catch, il y a eu des beaux affrontements. On a été bien servi. Je ne me suis pas ennuyé, je ne me suis pas parti pendant les matchs, comme ça peut être le cas à NXT ou à la All Elite Wrestling ou même à Monday Night Raw, où les matchs, on les a déjà vus 100 fois, où ils sont trop longs, où ce n'est pas les bonnes personnes. Où voilà, là, on avait des superstars qui s'affrontaient, c'était logique, et les matchs étaient tous vraiment très bons niveau technique. Et le flop, je vais le donner en fait au manque de surprises qu'on a eu finalement pendant tout le show pour un SmackDown post-mania. Je peux pas appeler l'arrivée de Seth Rollins une surprise.
Non.
Effectivement, et puis beaucoup d'absents. Voilà, donc pour moi, c'était pas un SmackDown. Du niveau d'un post-mania, hein, tout simplement. Là, effectivement, comme tu dis, on va vers ce WrestleMania Backlash qui sera vraiment la conclusion des affrontements des feuds qui nous ont menés jusqu'à WrestleMania. Et la route de WrestleMania n'était pas sensationnelle non plus. Donc, on tire encore un petit peu sur la corde de quelque chose qui n'était pas terrible. C'est pas forcément bon pour la suite. Mais bon, après, c'était fait proprement. Si je dois rester sur une note positive, donc j'ai mis 2,5 au show. J'étais un peu plus généreux que toi, j'ai mis la moyenne. Parce que c'était le meilleur show, je trouve, de la semaine. De ce que j'ai vu, même si j'ai pas tout regardé en entier. Je trouve que c'était le show qui était le mieux rythmé avec les matchs qui étaient les mieux troussés.
Ouais, globalement, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que je pense qu'on serait beaucoup plus indulgent si c'était pas ce SmackDown-là à ce moment-là de la saison. Et parce qu'on en attendait beaucoup plus et on a l'habitude d'avoir beaucoup plus. Sinon, c'était assez solide. Nous avons l'avis de Papy, est-ce que tu veux que je le lise ou est-ce que tu t'en charges?
Alors, si tu l'as sous les yeux, vas-y.
Je l'ai sous les yeux.
Parce que je ne l'ai pas, je ne sais plus, il faut que je le retrouve.
Papy, nous avons parfois comme ça les avis des absents. Papy, lui, il a donné son flop, alors c'est assez étonnant, à une séquence, le UFO de Cesaro. Il a trouvé que c'était assez chiant. Pire que Nia Jax qui tombe sur le cul. Voilà, le UFO.
UFO? Ouais,
Ouais.
ça me dit rien. Je ne sais pas ce que
Je sais
c'est.
pas. Eh ben, Papy, UFO que tu nous en dises plus, là, en commentaire. Eh ben, son top, lui, il aurait bien dit Pat McAfee, justement, qu'il a trouvé bon. Il lui donne un bon point. Il dit qu'il va se faire taper. Non, tu vas pas te faire taper, tapis. Enfin, pas pour ça, mais peut-être pour d'autres trucs. Mais pour lui, c'était la seule nouveauté. C'est vrai que c'était un peu la seule nouveauté.
C'est vrai. Mais c'est
Et il
vrai
a.
qu'on était
Ouais.
un peu tous pas très satisfaits de Pat McAfee à NXT, même s'il était talentueux, on était tous pas trop contents de le voir un peu prendre le haut de l'affiche. Donc l'arrivée à SmackDown, moi aussi, j'étais un petit peu perplexe. Mais bon, comme on a dit en début d'émission, il est à sa place, quoi, Pat McAfee, donc tout va bien.
Ouais, donc il est assez 2,25, hein, il met Papy, il est assez mitigé comme nous. Il dit voilà, ça ressemble à un show de période creuse alors qu'on est dans la semaine qui suit WrestleMania. Il a l'impression que les auteurs étaient en vacances avec des histoires pauvres, des micros pauvres. En plus, il n'est pas content que ce soit Michael Cole qui devienne la référence technique aux commentaires, c'est vrai. De l'UFO à en vomir. Oui, bon, ça je vois pas. Bah, de toute façon, ça fait vomir, c'est fait pour ça, puisque ça tourne très vite, c'est normal, Papy.
Des soucoupes
Et.
volantes.
Ouais, voilà. Et après, il te rejoint sur la qualité des matchs et les affiches. Et Cesaro, parfait challenger de transition. Voilà, mauvaise semaine quand même. Il trouve à la WWE. Alors moi, je n'ai pas vu NXT, mais j'ai vu Raw. Et c'est vrai que globalement, je suis. Voilà, ça m'a un peu douché parce que en général, j'aime bien là, ces petits desserts là quand on a. On a mille moments en mémoire. Hein, je pense des Raw et des SmackDown post-WrestleMania. On a. Qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu. Moi, je me souviens d'une Paige qui débarque. On avait eu.
Ziggler qui a gagné un titre une fois de champion sur un Raw Postmania comme ça.
Qui ça?
Ziggler, Dolph Ziggler.
Ziggler, oui, bah le Miz aussi, qui avait battu Zack Ryder justement quand Maryse était revenue, ouais.
C'est pour ça que je voyais les Street Profits gagner moi cette semaine, je me suis dit.
Bah, j'ai cru, mais finalement non.
Non, non. On a eu Kushida qui a gagné le titre Cruiserweight à NXT. Hein, si vous allez écouter la review, on vous dit tout là-dessus. Mais c'est à peu près tout. Et puis après ce match-là, le show s'est effondré. Bon, vous saurez tout en écoutant notre review de NXT. Désormais, toutes les semaines, on va vous reviewer NXT. C'est fini la baston du mercredi. Et petit spoiler, hein, je crois que Tonton vous fera une émission spéciale All Elite Wrestling.
Il est en préparation.
Ouais, pour ceux qui aiment. Ouais, donc comme tu dis, hein, il avait ajouté quelque chose encore, papy, ou c'était tout?
C'était tout.
C'était tout, c'était une semaine très très pauvre pour la WWE. C'est le retour de bâton après WrestleMania, on s'y attendait, hein, on saurait que ça ferait mal. Mais bon, on note quand même, voilà, SmackDown reste le meilleur show de la semaine. Ça, c'est une variante qui ne change plus, hein, désormais, c'est le A-Show SmackDown. Grosse semaine, alors je sais pas combien a fait SmackDown, en tout cas grosse semaine de ratings, hein, parce que je crois que Monday Nitro était au-dessus des 2 millions.
Oui.
NXT, du coup, ils ont fait 800 000 et quelques, ce qui est genre 200 000 de plus que ce qu'ils font en moyenne. Et gros carton pour la All Elite Wrestling qui a tapé à 1 million 2, sans l'opposition d'NXT désormais. Donc je crois que c'est une semaine où il y a eu le plus de où les ratings ont été le plus haut pour le catch en général, hein, sur ce coup-là. Il n'y a que Impact Wrestling qui a fait une contre-performance.
Oh zut.
Mais bon, comme ils sont au ras des pâquerettes, ça change pas
Pauvre
beaucoup.
petit, ça ira mieux la semaine prochaine.
Voilà, rassurez-vous, ça ne coûte pas cher comme émission de toute façon. Bientôt un crossover quand même entre la All Elite Wrestling et Impact, hein, c'est ce qui tourne un peu depuis quelques semaines. On aura Kenny Omega, hein, le champion de la All Elite Wrestling, contre le champion d'Impact.
C'est moi, Joe. Non.
Non, tu le connais bien, c'est un ancien champion WWE.
Ah.
Cruiserweight. Rich Swann.
Ah oui. Ah,
Voilà.
c'est celui qui tapait sa femme ou c'est l'autre?
C'est ça, mais juste quand il devenait zinzin.
Ah
Donc,
oui, mais il y avait, c'est confond avec l'autre qui. harceler les femmes sur Twitter, ça c'était Enzo Amore. C'est une belle, j'allais dire, c'est une belle carrière pour cette ceinture. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais juste avant le match Cesaro-Jey Uso, on a vu Jey Uso parader devant le trophée André the Giant, où, sur lequel il y a marqué tous les noms. Et t'as donc, on a donc pu voir Cesaro, le premier. Mm-hmm. On a vu quand même qu'il y avait Big Show, Matt Hardy et Mojo Rawley. Donc, trois qui ne sont plus là, quoi.
Ouais. C'est pas un prix qui porte bonheur à son gagnant. C'était qui a gagné l'année dernière?
Eh ben, l'année dernière, il n'y avait pas eu. Le dernier en date, c'est Braun Strowman. Donc, ça varie, en fait.
Il avait gagné ça. Ok. Bah, écoute, ouais, et qu'il fasse attention, le petit Jey Uso. J'ai hâte de voir quand même son frère débarquer. Je me demande s'ils ont prévu quelque chose pour son frangin.
Bah, je sais pas. J'espère qu'il est rétabli depuis, quand même.
Bah ouais, je sais pas. Oh, il avait une grave blessure, quand même. Ouais. Dernière fois qu'on l'avait venu, il était encore emplâtré.
Ouais.
Ça va être difficile pour lui de s'imposer, mais on croise les doigts. Ce qu'il mérite, quand même, les Uso. Hein. On peut les revoir aussi en tag team.
Ah bah oui.
C'est quand même des mecs qui nous ont fait le show assez souvent. Bon bah voilà, on a quand même fait le tour de ce SmackDown historique post-mania. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, évidemment, c'est là que tout le monde va, hein, sur YouTube. Si vous nous découvrez pour la première fois, pensez à vous abonner, comme ça, si ça vous a plu, et ben, dès qu'on sort une nouvelle émission, et on en sort beaucoup, et ben, vous l'aurez gratuitement, surtout si vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes averti dès que ça sort. On est aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast, alors vous pouvez aussi vous abonner sur les plateformes de podcast, c'est pareil, ça reste gratuit. On est sur Twitter, vous nous trouvez, c'est @catchupcdc. On est hyper actif en ce moment, là, profitez-en. On donne toutes les news, on vous donne les ratings, on fait des sondages, on fait des conneries, on retweet les trucs intéressants. Donc n'hésitez pas, si vous avez Twitter, allez nous chercher, @catchupcdc. On est aussi sur Instagram, on est aussi sur Facebook et on est aussi sur Discord. Si vous voulez nous rejoindre sur Discord pour discuter, eh ben, c'est open bar, l'invitation est dans la description, comme on dit.
Exact.
Et n'hésitez pas à liker et puis si vous nous suivez sur Twitter, n'hésitez pas à retweeter, ça fera plaisir à tonton.
Exact.
Mon bon Raph, merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait très plaisir de faire cette émission post-mania avec toi alors que j'étais grave en dépression.
Ah bah écoute, je suis content d'avoir pu t'aider à remonter le moral. Là, t'as fait un tour sur toi-même, un peu comme un UFO en fait, comme un ovni quoi.
C'est ça, j'ai l'impression qu'on m'a porté au-dessus de la tête de quelqu'un sans les bras et tout. Ça tourne un peu, mais là je suis requinqué. Hein.
Ah bah très bien.
Alors je suis chaud, on se retrouvera la semaine prochaine hein, les amis. Pour la suite de nos aventures, les suites de l'aventure de la WWE. On vous débriefera Monday Night Raw, NXT et puis SmackDown de retour. On a rappelé, vous, hein, toutes nos reviews qui sont en ligne donc pour WrestleMania, pour NXT TakeOver. Allez écouter ça. On a toujours le Retro Catch-Up qui est en ligne pour aller écouter un peu des reviews de catch vintage. C'est toujours bon à prendre, donc allez-y. Faites-vous plaisir, c'est toujours gratos. Et puis voilà, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis on n'a plus qu'à vous dire bye bye, ciao et à bientôt. Salut les amis, salut peuple de Catch-Up.
Salut les enfants, salut peuple de Catch-Up.
Tu connais le UFO ? C'est une prise assez impressionnante.
Ah, il fait tourner, ouais.
Il fait tourner une caisse sur sa tête, quoi.
Un peu comme tourner les serviettes. Un petit dédicace à Patrick Sébastien, finalement.
Patrick, si tu nous écoutes.